Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 juillet de 18 à 21h, en différé jeudi 21, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Et bien vous venez d'entendre la voix de Daniel Raffard de Brienne. Merci, bonsoir mes chers auditeurs. Bonsoir Daniel, comment ça va? Bonsoir à tous, amis de la Résistance, bonsoir. Et ennemis de la Résistance, bonsoir, parce que vous quittez immédiatement l'écoute, que vous n'aviez pas, d'ailleurs pas prise. Je dois commencer cette émission par des excuses.
Ah, à plat ventre tout de suite.
Oui, à plat ventre, parce que pour la deuxième fois en quelques semaines, les auditeurs du mercredi doivent me supporter toute la journée. Ils ont entendu à midi dans l'émission de Gérard Marin, qui est formidable. Gérard et son émission.
Et qu'est-ce que vous y faisiez?
J'y causais, madame.
Et vous y causiez, de quoi?
La raison de la colère.
Vous n'informez jamais.
Cette émission a été diffusée à midi. Elle a été rediffusée, je crois,
oui,
à 4 heures.
À 4 heures, oui.
Et maintenant, à 6 heures, c'est mon émission. J'ai failli inviter Gérard Marin. Et comme ça, enfin.
Oui, c'est une espèce de prise de pouvoir.
Normalement, il n'y a pas de danger. Et donc je dois m'excuser, enfin je dois te présenter des excuses, d'autant qu'il y a quelques semaines ça a été la même chose avec Anne Brassier. Et je vous promets que ça ne se reproduira pas avant la prochaine fois. Autour de moi, autour de cette table, Victoria, bonsoir Victoria.
Bonsoir Serge.
Vous êtes toujours resplendissant.
Oh sûrement, oui.
Si, si,
de plus en plus même.
Daniel Raffard de Brienne, qui nous fait l'honneur de se joindre à nous ce soir.
Mais pour moi.
Roger Hollande qui visiblement il est là.
Il nous a apporté des petits gâteaux, alors il devait être en train d'en manger.
Ah, c'est bon, c'est pour ça qu'il est pas là alors. Donc Roger, si tu m'entends, viens.
Tout est pardonné.
C'est mardi, il y a des raviolis. Oui, voilà. Le marquis, dont vous avez reconnu l'organe mâle, et non pas point mellifluent du tout, non. Et puis le goff nous rejoindra plus tard, et nous recevrons également Éric Lebec, qui est l'auteur du fameux livre sur Benoît XVI, et qui viendra nous parler, voilà, Roger fait son entrée, et qui viendra nous parler des vacances du pape. Je lui demandais de nous raconter des petites anecdotes, mais pas des petites anecdotes d'ailleurs.
Ah, si, c'est sympathique de savoir que le pape est parti avec son piano, ses chats.
Ses chats, c'est formidable.
Donner une dimension humaine, quand même, c'est bien.
Et avant, je vais faire une chose que je n'avais pas faite depuis longtemps. J'ai fait une petite lecture rapide de la presse, et notamment du Monde, parce que La Une du Monde, c'est un festival aujourd'hui. Et c'est un véritable festival, je dois dire. Dans la série, comment parler des choses sans rien en dire? Alors, le gros titre, c'est « La menace d'OPA sur Danone devient une affaire d'État ». Le gouvernement entend tout faire pour déjouer une offensive de PepsiCo. Alors, l'offensive de PepsiCo, qu'est-ce que c'est? PepsiCo veut s'offrir Danone. Faut savoir, qu'est-ce que c'est que Danone? C'est le plus grand groupe alimentaire, un des plus grands groupes alimentaires mondiaux. Oui. C'est en tout cas le plus grand groupe français, vu à peu près aussi français que l'équipe de France de football de 98, mais il est présenté comme français. Quoi, ça vous pas ce que je dis?
Non, je suis pas d'accord.
Je me passerai de votre accord, exceptionnellement. Mais, et donc les Amerlocs veulent nous piquer Danone. Étant donné ce que fabrique Danone, je vous dirais que pour ma part, ça me fait, comme dirait Chirac, ça me touche une oreille sans faire bouger l'autre, parce que...
Vous avez l'oreille basse.
Oui, parce que Danone, c'est quand même pratiquement que des produits laitiers, c'est-à-dire, si j'en crois certains amis médecins, des produits qui ne font qu'accélérer le processus naturel de la vie, qui est, comme vous le savez...
Le vieillissement.
Mais non, la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible, dont le cours peut être raccourci par l'abus du lait et des laitages. Je le dis comme ça parce que je n'ai pas d'intérêt dans l'industrie laitière, autrement j'en parlerai pas, bien entendu. Alors le gouvernement entend tout faire pour déjouer une offensive de PepsiCo, nous rassure le monde. Et Laurent Fabius appelle Jacques Chirac à agir en urgence.
Il pédale dans le yaourt, de toute façon.
Et moi, je voudrais qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Rien.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement pour empêcher PepsiCo d'acheter Danone. PepsiCo va lancer une OPA, agressive ou pas. C'est-à-dire qu'il va dire aux gens qui sont propriétaires d'actions Danone, vos actions valent 3 francs 6 sous, on vous en donne 4 francs 8 sous, vendez-les nous, les gens vont les vendre.
Et puis voilà.
Voilà. Alors l'État va dire, nous on en donne 5 francs 2 sous. Mais où ils vont trouver le fric? La France est endettée, j'ai dit une bêtise dans l'émission de Marin, j'ai dit 1,2 milliard, non. 1,200 milliards. 1,200 milliards de dettes. Alors on va se payer, on va donner de l'argent aux propriétaires de Danone pour les dissuader de vendre à PepsiCo. Mais enfin, on est des malades, non? Il n'est pas question de faire ça. Donc si PepsiCo veut mettre le prix, ça sera vendu, et puis grand bien leur fasse. Et mais naturellement, c'est une affaire politique. Alors Chirac, il a besoin de faire savoir qu'il va tout faire, il va faire tout ce qu'il peut. C'est ça que ça veut dire?
C'est le pire.
Et tout ce qu'il peut, c'est rien. Donc il va faire rien, comme d'habitude. C'est pour ça que Fabius l'appelle à agir en urgence. Parce que, entre nous, Fabius, il n'a qu'une ambition, c'est de prendre la place de Chirac. Donc, il lui dit, ne faites rien, et d'urgence, pour gicler plus vite, afin que je puisse vous piquer la place. Et à mon tour, ça sera, je ne ferai rien pendant 5 ans, mais qu'est-ce que j'aurai comme fric?
Ils avancent le fait que ça fait travailler 6000 exploitations forestières.
Laitières.
Laitières. Mais si le gars qui achète ça continue à faire le même produit, il n'y a pas de raison qu'il n'achète pas.
Il ne va pas acheter son lait au Sahel.
Oui, voilà.
Et quand bien même, ça ferait disparaître les 6000 exploitations laitières. Ben, ça fera quoi? 12, 15 000 chômeurs de plus? 18 000? Ça représente combien d'employés une exploitation laitière? C'est pas comme ça que... Enfin, c'est pas ma conception de la défense de l'intérêt national. Danone, c'est pas une société française, c'est une société installée en France, elle appartient à... C'est ça le fric vagabond, la fortune vagabonde. Donc les gens qui sont... le banquier suisse, l'homme d'affaires espagnol qui est propriétaire d'actions Danone, s'il veut vendre, il vendra. L'intérêt français, il s'en fout, il a bien raison. Parce que pour ma part, si j'avais des intérêts dans une affaire espagnole ou suisse, je me contrefoutrais de savoir s'ils deviennent américains demain ou Oldovalak ou poldoludiques. Ça n'a aucune importance. C'est ça le mondialisme. On est dedans. Ils ont voulu y aller, ils y sont, alors qu'ils se débrouillent. Le deuxième titre, c'est... Alors ça, c'est encore magnifique. C'est un article de M. Bernard Kouchner. Alors celui-là, Je veux dire, il risque pas de se prendre les fesses nues, hein, parce qu'il est culotté jusqu'au nez. Cessons de nous mentir. Non, mais attendez, Bernard, cesse de nous mentir. Cesse-toi de nous mentir. Ou alors, dis-nous la vérité sur, par exemple, l'affaire des produits contre le cholestérol. Hein, les médicaments contre le cholestérol qui donnent, pour guérir d'une maladie qui n'en est pas une guérison qui est extrêmement dangereuse et parfois mortelle. Ça, il faudrait nous en parler. Ou alors, il faudrait qu'ils nous disent la vérité, Bernard, sur l'affaire du vaccin contre l'hépatite B. Ou alors, il faudrait qu'ils nous donnent la vérité sur l'achat de quelques millions de doses de vaccins antivarioliques alors que la variole est éradiquée. Ah, mais ils ont fait d'abord courir le bruit qu'il y avait un danger de regain de la variole, ce qui a permis d'acheter des millions de doses de vaccins au laboratoire américain qui fabriquait pour rien le vaccin antivirique et qu'on venait de priver par l'interdiction d'un des produits qu'ils vendaient de la manne liée à ce produit. Alors ça, s'il veut nous dire la vérité là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais quand il dit « cessons de nous mentir » et qu'il dirait plus de 10% de chômeurs, un jeune sur 4 sans travail, un Français sur 5 sans formation, 1 million d'enfants pauvres, des hôpitaux saturés, une assurance maladie qui vit à crédit, aux dépens des générations futures, le système social français n'est plus un modèle pour personne. Au mieux, c'est un vestige. J'ai envie de lui dire, attendez, c'est vous ou c'est moi qui ai été ministre de la Santé?
Et voilà.
Qui est-ce qui a été ministre socialiste? Qui est-ce qui a eu le pouvoir pendant 2 septennats pour essayer de régler, en nous promettant que les problèmes allaient être réglés, qu'il n'y aurait plus de pauvres, plus de malades, plus de vieillards, plus que des gens de 30 ans courant sur les plages au ralenti, avec une rose entre des dents étincelantes, sous un soleil qui ne chauffait pas trop, bicose canicule, qui ne donnait pas le cancer, hein, alimenté au lait sans graisse et au beurre sans sel. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est bien le Parti Socialiste et les voyous qui l'entouraient et les ministres socialistes qui nous ont promis tout ça. Et alors maintenant qu'ils sont plus au pouvoir, ils nous disent « Oh, et donc qu'est-ce que ça va mal ?» Bon, c'est vrai que Chirac n'a rien arrangé. Enfin, franchement, on peut pas dire qu'il soit responsable de tout. Hein. Et en tout cas, s'il y a un responsable du mauvais état du pays, M. Kouchner, il peut vraiment battre sa coulpe sur sa poitrine à lui, en tout cas pas sur la mienne. Alors, cesse de me mentir en me disant que je dois cesser de me mentir, Kouchner. Voilà, c'était deux choses que je voulais dire. Il y a aussi, il y a un autre article qui est très joli, c'est...
Attendez, sur ce sujet-là, j'ai un message d'auditeur. Premier message, dette de la France, 12 milliards, dit Serge de Beketch.
Non, 1200 milliards.
D'euros. Ben oui, c'est ça qu'on vous demande de préciser.
Ben, de quoi je peux vous parler?
Comme on parle encore en francs
centimes point carré.
Donc, c'est bien en euros. Et puis,
c'est pour ça que vous m'interrompez.
De toute façon, c'est vertigineux.
Vous oubliez qu'en page intérieure, du Monde probablement, un graphique en forme de camembert indique la décomposition actuelle du capital de Danone, qui est déjà entre les mains d'institutionnels étrangers anglo-saxons, pour près de la moitié.
Ben,
les mains, c'est les mains.
On m'interrompt et après on me dit j'oublie. Non mais c'est quand même formidable ça. Vous êtes
mais écoutez Serge,
pas d'audace,
si vous allez parler d'autre chose que Danone, alors je vous lis les messages sur Danone.
Attendez, je fais ce que je veux, moi je sors sur l'actualité avec une virtuosité digne d'un meilleur sort.
Attendez, une autre précision à propos de Danone. Persiste et signe. La société Danone, anciennement BSN, a longtemps financé les campagnes électorales des partis de la bande des quatre. Et puis, la CGT a demandé la nationalisation de Danone sous prétexte qu'elle représente l'art de consommer à la française. Voilà.
Bon. La CGT. Alors, bon, si vous voulez, la répartition du chiffre d'affaires, effectivement, la répartition du capital au 31 décembre 2004 en pourcentage, nous dit Le Monde. Alors, Danone appartient à 18% à autres. C'est autre.
Ah, autre. Ah,
c'est autre.
Monsieur, madame, autre.
Royaume-Uni, 9%. États-Unis, 15%. Conseil d'administration, 6%. Autocontrôle et actionnariat salarié, 8%. Actionnaires individuels, 15%. France, 29%, je l'ai dit. Donc, voilà. Les institutionnels représentent 71%. Et les actionnaires individuels ou salariés, plus le conseil, représente donc 29%, c'est ça. C'est-à-dire que la France détient le même pourcentage d'actions que les actionnaires individuels, salariés et le conseil d'administration, 29%. Alors, 29%, c'est une minorité de blocage, mais je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire, ce voilà. que Chirac peut faire. D'ailleurs, en quoi ça le regarde? Il va se transformer en quoi? En crémier? Il n'est déjà pas capable de gérer les problèmes de la France. Il ne croit pas qu'il va être capable de gérer les problèmes d'un groupe comme Danone. Bon, quant à la répartition du chiffre d'affaires, alors c'est des boissons, Evian, Volvic, Bladois, Salvetat, etc., etc. C'est-à-dire c'est des gens qui mettent ils vous vendent de l'eau gratuite, quoi. Hein, la différence entre l'eau que vous trouvez partout et l'eau que vous trouvez dans les bouteilles, c'est qu'elle est payante.
Vous voyez, c'est meilleur.
25%, 22% des produits et biscuits céréaliers, Lu, Prince, Petit Beurre, Mikado, Pimps, pratiquement tout ce que vous mettez entre le nez et le menton, ça vient de chez Danone.
Le véritable Petit Beurre Lu.
Oui, mais c'est plus le véritable Petit Beurre Lu, parce qu'avant, c'était Lefèvre Utile, c'était pas Danone. Lu, c'est Lefèvre Utile.
Vous avez déjà vu un beurre utile?
Ça y est, boum.
Ça commence.
20 briques. Ah là 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 là, c'est difficile de faire... Non, si vous voulez faire des trucs comme ça, il faut aller les faire chez...
C'est Ruquier.
Ruquier, il risque rien. Alors, produits laitiers frais, Actimel, Bio, Taille Fine, Jockey, Danone, Nature, Petit Gervais. Petit Gervais, ça c'était bon ça. À l'époque, c'était M. Gervais qui le faisait.
Je ne ferai pas de commentaire.
Voilà. Alors, il faut réunir plus de 66% du capital pour acheter le groupe et tout. Si Pepsi veut le faire, il le fait, puis c'est tout. Et les opérateurs boursiers craignent la ringardisation de la place de Paris. Ils craignent pas la ruine du pays, ça ils s'en foutent. Ils craignent pas que Chirac soit réélu pour la troisième fois, ça ils s'en tamponnent. Ce qu'ils craignent, c'est passer pour ringard. Ça c'est le nouveau truc maintenant en France, on peut tout faire. On peut tout faire. Se balader les gonades à l'air entre la Bastille et la Nation avec une plume d'autruche entre les fesses et un entonnoir bleu-blanc-rouge sur la tête, ça fait rire tout le monde, c'est très chic et tout. Mais être ringard, alors là, pas question, à aucun prix, et il faut pas être ringard. Il faut être moderne, branché, branchouille, câblé, et tout ira bien. Voilà. Alors, donc, si vous avez des actions Danone, vendez-les. Ça fera plaisir à Chirac. Maintenant, le troisième titre dont je voulais parler, ça c'est splendide, l'article est magnifique. Justice surchargée à Paris. 9 tribunaux de la région parisienne connaissent de grandes difficultés. Yves Beau, procureur général près de la Cour d'appel de Paris, s'en inquiète dans le rapport annuel de la politique pénale 2004 du parquet général. Cette situation a pu faire dire à plusieurs procureurs que leurs initiatives en matière de politique pénale se trouvaient contrariées, voire empêchées par le sous-effectif des greffes. Ces personnels sont indignés. Blablabla. À Bobigny, Seine-Saint-Denis, deuxième tribunal de France pour le nombre d'affaires traitées, plus de 3500 jugements de condamnation étaient en attente de traitement à la fin de l'année 2004, et à Meaux, Seine-et-Marne, 600. À Ivry-Aussonne, la situation est décrite comme très mauvaise, et le manque de fonctionnaires ne permet pas de s'adapter. À Bobigny, on compte 260 fonctionnaires pour 325 postes alloués. Près de 30% des personnes... Excusez-moi, je m'explique mal. Au cours de l'année 2004, l'activité des forces de police et de gendarmerie a entraîné une importante augmentation du nombre des faits élucidés et du nombre des personnes interpellées et placées en garde à vue. Près de 30% de plus qu'en 2003. Alors, ça, vous venez d'entendre cette phrase ? Il y a quelque chose qui vous a frappé là-dedans ?
Oui.
Je répète. Alors, Marquis, vous mangez pas la grenouille, le morceau, s'il vous plaît. Au cours de l'année 2004, l'activité des forces de police et de gendarmerie a entraîné une importante augmentation du nombre de faits élucidés, du nombre de personnes interpellées et placées en garde à vue, près de 30% de plus qu'en 2003 dans le ressort du tribunal de Créteil. Autrement dit, c'est pas du tout les délinquants qui emmerdent la justice. Ne croyez pas ça. Les délinquants, ils font leur boulot, on ne peut pas leur reprocher. C'est les gendarmes. Les gendarmes, ils travaillent. Ils arrêtent les voleurs, les brûleurs de voitures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent dans les tribunaux. Alors, les magistrats, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont encombrés. Donc, il faut que Sarkozy dise aux gendarmes et aux policiers d'arrêter.
Il faut laisser délinquer tranquillement.
Laisser délinquer. Faites pas la même chose.
Hein, non, c'est quand même... désencombrer les tribunaux.
Il faut être un peu tordu. Non, et alors...
Préférer un conseil français des délinquants.
Voilà.
C'est représentatif.
Ah,
voilà.
Très bien. un conseil français des représentatifs des délinquants.
Il ne sera pas contesté.
Le conseil représentatif de la délinquance française. Ça serait bien, ça. Et alors, voilà. Donc, pourquoi il y a une augmentation dans les tribunaux, devant les tribunaux? Pourquoi il y a tant de monde? Pourquoi? C'est dû à quoi? Pourquoi ça se passe à Bobigny? Pourquoi ça se passe à Ivry? Pourquoi ça se passe à Meaux? Pourquoi ça se passe pas à Aubenas, par exemple? Hein? Ou à Privas, en Ardèche? Pourquoi? Eh ben, on sait pas. Vous pouvez lire Le Monde dans tous les sens. Pourquoi ça se passe à Créteil? Eh ben, on sait pas. Pourquoi ça se passe pas dans le 7e arrondissement?
Ben, on sait pas.
Eh ben, non, on sait pas. Donc, si vous voulez ne rien savoir, lisez Le Monde, vous serez servi. Et donc, il faut arrêter, messieurs les machin truc, messieurs les gendarmes, de...
D'empêcher de délinquer.
D'empêcher de délinquer. Laissez délinquer les délinquants. Après tout, pendant ce temps-là, ils vont pas au café. Hein. Voilà. Monsieur Villepin souhaite plus de souplesse, nous dit encore Le Monde, pour le jour de solidarité. Ça, je trouve aussi ça admirable. Alors, ils nous disent un jour...
Faire au mur.
Jean Ferrat nous dit, on va faire une journée de solidarité. Bon, on travaille déjà, quand même, faut savoir. Je le disais encore tout à l'heure. C'est pour ça que les gens qui écoutent toute la journée, ils vont dire que je gratouille. Ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Mais... Il paraît que c'est vers le 16 juillet qu'on commence à travailler pour soi-même, hein, d'après le cri du contribuable.
Sinon, c'est la prostitution pour l'État.
C'est pour l'État, voilà. Jusqu'au 16 juillet, on travaille pour l'État. À partir du 16, on travaille pour soi-même. Pour soi-même. Alors, Raffarin, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il a dit, bah, maintenant, ça sera à partir du 17, parce qu'on va ajouter une journée de solidarité. Donc, jusqu'au 17, vous travaillerez pour... Alors, jusqu'au 16 pour l'État, le 16 jusqu'au 17, vous travaillerez pour les vieillards, mon œil. Et puis, à partir du 17 juillet, vous aurez le droit de travailler pour vous jusqu'au 31 décembre. Trop aimable. Très bien. Alors, c'est curieux que ça se passe à partir du 17 juillet, c'est-à-dire au moment où tout le monde
part en vacances. Oui, c'est un symbole.
Donc, vous aurez le droit de ne rien foutre ou de travailler pour vous. Bien. Et puis, mais au lieu de dire ça, il a dit non, c'est le jour de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, vous allez travailler. Il aurait pu dire le jour du Yom Kippour ou le jour de l'adoration du grand oignon ou le jour de, je sais pas quoi, du
grand oignon, c'est des guépreux, ça, non?
Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Bon, ou alors un jour comme ça. Non, il voulait absolument que ça soit le lundi de Pentecôte. Alors il a dit, ça sera le jour que vous voulez, à condition que ça soit le lundi de Pentecôte. C'était ça, à peu près. Bon, les Français l'ont envoyé faire foutre, ils ont eu bien raison. Alors là-dessus, tous ces gens qui avaient dit, on ne cèdera pas, vous verrez, on tiendra le coup, on a dit que c'est le lundi de Pentecôte, ça sera le lundi de Pentecôte, faut pas croire qu'on est des lopettes et tout. Alors maintenant, ils disent, peut-être qu'on pourrait faire preuve d'un peu plus de souplesse, il faut plus de souplesse, hein. Les Français, vous êtes un peu raides à la toile, il faut plus de souplesse.
Mais après un long travail de députés qui se sont réunis en commission, on travaille là, attention, oui.
Alors maintenant, donc, voilà. Alors la décision qu'ils ont prise, puis il n'est pas question d'y revenir, hein. Bon. C'est bien clair, hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Puis, de deux choses l'une, hein. Ou c'est comme ça, ou c'est pas autrement. Bien, ben merci, messieurs. Alors, monsieur.
Enfin, le drame, quand même, est que notre pays est devenu ingouvernable.
Voilà.
Voilà. Il faut quand même tirer la leçon de cela. Notre pays est devenu ingouvernable.
On ne peut pas vraiment dire que ce soit une nouveauté, tu vois.
Oui, c'est moi, j'ai le vague sentiment. Ça ne fait que croître et embellir.
Il y a deux choses qui sont pécamineuses en France aujourd'hui. C'est rouler à 111 à l'heure les jours d'ozone sur l'autoroute, où tu dois descendre de 20 km/h la vitesse de ton véhicule, c'est-à-dire de 130 à 110. Si tu roules à 111, tu vas directement en prison sans passer par la case départ, et de manifester un manque d'appétence pour la société multiculturelle. Ça, c'est je traîne faire botton et tu vas en prison. Pour le reste, tu fais à peu près ce que tu veux. C'est ça, c'est le libéralisme. Voilà. Et la lecture du Monde était différente à cet égard. Mais quand même le titre vedette de la semaine, c'est « Cessons de nous mentir » par Bernard Kouchner. Celle-là, je dois dire, je pensais pas qu'on me la ferait un jour. Eh ben si. Voilà, c'était un vrai plaisir. Je voudrais dire un mot de la réunion de Renaissance catholique à laquelle j'étais.
Vous fûtes brillant, d'après ce qu'on m'a raconté.
Vous n'y fûtes pas, Daniel. Vous êtes vice-président. Je ne vous y vis point.
Bah, vice-président, président d'honneur. Président d'honneur, ça ne fait rien.
Président d'honneur, c'est...
Président d'honneur, ça veut pas dire que vous êtes interdit de séjour, quand même.
Non.
C'est pas bandit d'honneur, président d'honneur. Non, vous auriez dû venir. C'était absolument charmant, comme d'habitude. Vraiment charmant. C'était passionnant. Il y avait l'abbé Le Careux, il y avait le père Avril qui était là.
Oui, ben je connais tous.
Ben, sans doute, bien sûr. Il y avait aussi, comment s'appelle-t-il, je trouve c'est trop bête, ce merveilleux vieil abbé, là. Bon, ça me reviendra, parce que je veux pas l'oublier, il est tellement gentil. Et puis il y avait Michel de Gégère, Jean-Pierre Maugendre, monsieur et madame Rostand, enfin, j'en oublie, donc ça y est, je suis fâché avec la moitié de la planète. Mais tant pis, c'était vraiment un endroit, d'abord l'endroit est magnifique, je l'ai déjà dit, Villepreux, il faut y aller, si vous avez l'occasion. Il y aura quelque chose à la rentrée avec Bernard Anthony, il y aura quelque chose aussi qui sera organisé par le père Argouache, certainement. Vraiment, venez voir le domaine de Grand Maison à Villepreux. Si un jour vous avez un enfant qui est resté assez réactionnaire pour faire un mariage en blanc avec réception, il faut faire ça là-bas. C'est quelque chose de splendide. Et les gens sont adorables. Et le soir, ils nous ont présenté un petit spectacle. Et il y a eu un grand moment. C'était un débat télévisé pour la présidence du monde entre Ben Laden et Bush. Ça, je vous garantis que c'est... Et ils ont préparé ça en 2 heures, les jeunes. C'était pratiquement improvisé. Ils ont écrit des textes comme ça à toute vitesse. Ils les ont appris. Ils ont fabriqué des costumes de briques et de broc. Et c'était à mourir de rire. Vraiment à mourir de rire. Tout ça, naturellement, d'une incorrecteté politique exceptionnelle. Alors là, à la télé, ça passait pas. Même Canal+ prenait feu. Hein. Voilà. Mais c'était très très bien. Très bien. Il faut les féliciter. Il faut saluer leur courage et puis leur joyeuse chrétienté, c'est ça. Ils sont clairs, ils sont lumineux, ils sont contents d'être là, on sent, ils sont contents d'être ensemble et tout. Et c'est vraiment rassurant. Je signale la sortie aujourd'hui d'un énorme bouquin de et sur Le Ribot, Loïc Le Ribot. Qui a peur de Loïc Le Ribot, qui est le compendium, c'est ça, de tout ce qu'il a fait. C'est passionnant, je l'ai parcouru, mais j'ai piqué des anecdotes au passage. C'est vraiment tout à fait passionnant. C'est incroyable. Il a une moelle, un courage, ce personnage.
C'est une somme, ça.
C'est une somme. Il y a un disque, un DVD, je crois.
C'est un DVD.
Je ne connais rien, moi. Alors, CD, DVD.
Oui, j'ai vu hier.
Oui. Bon, alors, voilà. Oui, vous avez vu. Bon, d'accord. Il a la gentillesse de saluer Radio Courtoisie au nombre de ceux qui lui ont apporté leur soutien. Il dit « Je remercie les médias et revues qui m'ont apporté leur soutien. » Agnus, 17 juin, Alternative Santé, L'Ère Nouvelle, France 2, L'Impatient, La Lettre des Landes, Lecture Française, Morpheus, Motus, Nexus... Objectif Santé, Radio Courtoisie, Radio Peltre Loisirs, tous ceux qui m'ont fait l'honneur d'adhérer à l'Association Internationale des Amis de Loïc Le Ribot, et il raconte son histoire, et c'est passionnant. Alors là, pour l'instant, il est tranquille, et ses produits continuent à faire enrager les gens qui préfèrent nous vendre très cher des trucs qui font du mal, plutôt que de nous vendre à prix raisonnable des choses qui font du bien. Voilà, il y a des... Il raconte comment il a fait certaines enquêtes sur des crimes, sur des comment il a découvert simplement par le fonctionnement de ce qui apparemment n'est pas distribué à l'école de police, qui s'appelle une cervelle. Ça fait pas partie de l'équipement obligatoire des enquêteurs aujourd'hui, et il a découvert des conditions d'assassinat tout à fait rocambolesques. C'est passionnant. Monsieur Lebec, je vous salue si vous voulez prendre place, et je signale également la sortie du livre de Michel de Gégère, Enquête sur la christianophobie. Alors si on était dans un pays normal, c'est un livre qui serait à la une de tous les journaux et qui lui vaudrait d'être invité sur toutes les radios et toutes les télévisions, parce que en 220 pages Michel de Gégère administre la preuve absolument accablante que tout ce qu'on nous raconte sur l'antisémitisme, l'anti-islamisme, l'anti-machinisme, je ne sais quoi, c'est du pipeau. La seule véritable haine raciale fondée sur des motifs religieux qui se manifeste en France d'une façon officielle, constante, organisée, souterraine, visible, vicieuse, directe, judiciaire, policière, médiatique, politique, scolaire,
maçonnique,
médicale, maçonnique, sur tous les plans, La seule, c'est la christianophobie, c'est la haine du christianisme. C'est un bouquin, à chaque page, vous tombez de l'arbre. Vous dites, c'est ce qui est fatigant à lire, parce qu'il faut remonter. Mais c'est ahurissant. Mais c'est ahurissant ce qu'on découvre là-dedans. Même moi, qui ai passé des années à recenser les ordures que les francs-macs déversent sur nous, que le, pas que les francs-macs d'ailleurs, que le géo, toute cette racaille socialo-maçonnique nous déverse sur le poil en permanence, et je découvre des trucs, je dis, c'est pas vrai, ils ont pas fait ça. Et les pires ennemis, quand même, enfin les plus dangereux, les plus méchants, les plus redoutables, les plus vicieux, c'est quand même certains évêques.
Et ben voilà, voilà. Oui.
Alors il faut lire ce bouquin, il s'appelle « Enquête sur la christianophobie », il est de Michel de Gégère, et il vient de sortir aux éditions de Renaissance catholique. Et il y a une magnifique couverture, très beau dessin à la plume, très beau lavis de couleur à la plume, enfin c'est bien fait, d'Olivier Madelin. Qui est une station de chemin de croix, le Christ devant Pilate, ce qui me paraît une très bonne illustration du sujet. Voilà, et pour conclure, je vais demander à la technique de nous envoyer un petit disque que on m'a confié hier. C'est Alexandra MC. Alors c'est pas MC Solar, hein. C'est Alexandra MC, qui a enregistré un truc. Alors c'est pas une professionnelle. C'est pas une voie travaillée, il y a pas 15 ans de conservatoire derrière, il y a même pas 2 mois de travail avec la Chiara Academy, comment ça s'appelle?
La Merda Academy, là, j'ai jamais regardé, je pense que c'est.
Alors, donc,
ah oui, il y a une dame qui est professeure à ce truc-là, oui.
Eh bien, c'est simplement une dame, Alexandra MC, qui aime Paris. Elle aime la vraie chanson française et elle a écrit un texte qui s'appelle Les Troubadours et puis elle l'a mis en musique, alors je sais pas comment, et elle doit jouer avec une petite boîte à ritournelle là. Vous allez voir, ne vous attendez pas à la Calas ou à ça. Non, mais... C'est mignon comme tout, je trouve. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez après.
Quand Paris s'appelait Lutèce, déjà au cœur de la cité, vieillard joueur de brosse-caisse, et les troubadours ont chanté. Aujourd'hui, dans la capitale, à Notre-Dame au Panthéon, flûte, violon et cymbale, dans un concert donne le ton. Il y a toujours des troubadours, il y a toujours des musiciens qui font passer dans les refrains ce rêve vers lequel on court. Il y a toujours des troubadours. Dans l'église de Saint-Eustache, des noirs jouent parfois du reggae, le paradoxe a du panache, et les yeux tristes sont plus gais. Au pied d'une tour futuriste, les effluves d'un air vieillot, c'est le vieil accordéoniste avec sa rengaine rétro. Il y a toujours des troubadours, il y a toujours des musiciens qui font passer dans les refrains ce rêve vers lequel on court. Il y a toujours des troubadours. À la terrasse d'un café, quelques morceaux style classique, ils sont d'un jean ébouriffé et les badauds sont nostalgiques. Quartier latin à la fontaine, soit par un groupe ou un solo, l'improvisation se déchaîne, le récital est souvent beau. Il y a toujours des troubadours, il y a toujours des musiciens qui font...
couper un peu vite. Alors,
ben, j'étais en train de me dire que s'il y a les auditeurs qui ont pris l'émission en marche, ils vont pas croire une seconde qu'on est dans votre émission. C'est charmant, c'est voilà. charmant.
Alors, ce qui est curieux, c'est que la voix est pas travaillée, on voit bien, elle n'est pas posée, mais c'est, ça ajoute encore
c'est frais, au
charme. C'est joli, c'est voilà. Alors, si vous voulez vous le procurer, je sais absolument pas comment on peut faire, parce que il y a pas loin de radial, s'il y a rien. C'est Alexandra Muller-Chapuis, Alexandra M6, mais ça s'appelle Les Troubadours, vous l'aurez deviné. Et c'est un disque, comment on appelle ça, un single.
Un single.
Voilà. Et bon, je sais pas, il doit y avoir un moyen de l'acheter, puisqu'il y a même une étiquette, il y a marqué 8, alors c'est peut-être 8 euros, je sais pas. Si Alexandra Muller-Chapuis nous entend, elle peut toujours téléphoner au 01 45 23. Ça y est, j'ai le trou, parce que j'ai commencé à réfléchir, ce qu'il ne faut jamais faire. 46 51 00 85. Au 46 51 00 85, pour dire où on peut se procurer son.
Alors, je crois qu'elle nous demande où elle peut l'acheter. Non.
Elle doit le savoir. C'est préférable qu'elle nous le dise pour qu'on puisse le dire aux auditeurs. Il est très, très fatigué, le marquis. C'est le Maroc qui vous a fait ça?
Ah oui, ça m'a un peu chauffé la cafetière.
C'est réussi.
Je peux vous interrompre une seconde pour vous dire que le nom du prêtre que vous recherchiez tout à l'heure est l'abbé Dupré.
L'abbé Dupré, voilà, oui. Bien sûr.
Un nom si simple.
Merci Philippe. C'est incroyable d'être obligé de déranger Philippe pour savoir ça.
Bon, le salut au passage.
Salut, bien sûr. Autre chose, non?
Non, pour le moment.
Et Roger, avant de te lâcher, parce que je sens que tu commences à avoir le sang qui bouillonne, ça t'a, ça t'a plu cette musique?
J'ai pas tellement le sang qui bouillonne, parce que, bon, bah, l'actualité, il n'y a pas grand-chose à en dire, sauf que c'est le cirque, quoi.
Mais tu veux pas me dire ce que tu penses de cette musique, alors?
Pardon?
Tu veux pas me dire ce que tu penses de cette musique?
Si, c'est mignon.
Voilà, bon, c'est bien. Hein? Daniel Raffard de Brienne? La serbe Daniel?
Même chose.
Bon. Non, vous êtes moins enthousiaste que nous, alors?
Oui. Ils sont un peu mous, tous.
Il faut que ça manque de flamme, un peu.
Enfin, pour c'est une marrant, fois qu'on peut écouter quelque chose non, avec c'est... bonheur, sans...
Oui, non, mais
c'est parce que c'est des jeunes. Eux, ils aiment des trucs branchés.
Non,
quoi,
moi, pas du tout.
Non, c'est pas des gens de marche, c'est pour ça.
C'est propre, c'est mignon, voilà, c'est sympa.
C'est propre et c'est mignon, et c'est très plaisant.
Oui, voilà. Éric Lebec aime ça.
Je trouve qu'il y a plus de contenu que dans bien d'autres choses.
C'est vrai, on écoute avec plaisir.
Ça vaut pas le rap, c'est sûr, Daniel, je suis bien d'accord avec vous, mais on ne peut pas passer sa vie au palace.
C'est fini, le palace. Oh là là.
Bon, qu'est-ce qui existe?
Ça, c'est le rap des villes, par rapport au rap des champs. Le bain douche, ça n'existe plus non plus. Ah non, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a maintenant qui est branchouille?
Régine Skaya, je ne sais pas.
Ouais. Non, le Maneret, non, c'est un instant. Les bains douches, il y en a encore.
Mes enfants, nous allons maintenant ouvrir le banc et donner la parole à Angéline, qui, je le sens, a quelque chose de grave à nous dire.
Non, comme je le disais il y a 30 secondes, je n'ai pas grand-chose de grave à dire. Je suis, moi, je suis un militant politique, tout le monde le sait. Et ici, autour de cette table, il y a plus souvent des militants politiques que des gens qui se foutent de l'avenir de la France. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de rire ou de sourire dans notre malheureux pays aujourd'hui. Je suis en train de préparer un bouquin que j'essaye de sortir pour les BBR. Bon, mais c'est pas à vous qui écrivez que je vais dire que c'est un très 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 gros travail. Bon, le titre que j'ai déjà trouvé, qui est définitif, je ne le changerai pas, c'est « La guerre psychologique et les nouveaux collabos ». Et pour écrire ce livre, je lis énormément. Et comme tu disais tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit en lisant des choses de périodes que l'on a traversées, que l'on a vécues, mais sans rentrer à l'intérieur de chaque fait bien précis, que l'on nous ment sur toute la ligne. Je voyais l'autre jour encore les profs là qui se soulevaient, qui gueulaient parce que on voulait leur faire apprendre la Marseillaise aux enfants, on voulait rectifier un peu telle qu'elle a été écrite par les gens de gauche hein, l'histoire de la colonisation française, et tous ces gens hurlaient pas de politique imposée, pas d'histoire officielle. Mais quand tu lis ce que disait Kouchner, tu tombes à la renverse. Moi, quand je lis ce que disent tous ces gens-là, il y a de quoi tomber à la renverse. En quoi l'histoire qui est enseignée à nos enfants n'est pas officielle? Elle est officialisée par l'État. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est fausse.
Elle est imposée par la justice.
Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est totalement fausse. Je ne sais pas. Par exemple, pour faire certains chapitres de mon bouquin, je lis un ou deux livres dont je tire trois lignes. Bon. Dans ce bouquin, je vais parler de Vichy. Est-ce qu'une fois de plus, on va nous dire que je veux réhabiliter Vichy? Moi, je veux rien réhabiliter du tout. Moi, je n'ai rien à défendre. Moi, j'étais dans la résistance et mon père était communiste. Alors bon, ben, y a pas de problème. Si j'avais voulu faire carrière là-dessus, je pouvais très bien faire carrière au même titre que si j'avais voulu. Je serais député maire RPR d'une grande ville depuis 35 ou 40 ans. Je suis pas plus con que M. Longuet, pas plus con que M. Madeleine. Bon, j'ai toujours dit que j'étais resté avec.
Non, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus.
J'étais resté avec Le Pen uniquement pour une chose, ce qu'il avait dit, je préfère être battu sur mes idées qu'élu sur les idées des autres. C'est ce qui m'a motivé dans le combat que j'ai mené au Front National. Mais disons que moi qui aime bien rire, qui aime bien la gaudriole, qui aime bien boire un pot autour d'une table entre copains, comme on faisait dans le temps au para, je n'ai plus du tout envie de rire parce que je ne deviens pas désespéré pour cela, mais je vois notre pays prendre la descente à une telle vitesse que je me demande si on va pouvoir rattraper le coup. Chaque fois que je lis pour mon bouquin un livre écrit par un gars qui était à l'endroit dont il parle, qui a vu de près la chose dont il parle, même moi qui fais de la politique depuis 40 ans, qui ai passé ma vie à lire, parce que nous sommes une famille de lecteurs à la maison. Ma fille a une bibliothèque immense, ma femme a une très grande bibliothèque, et moi j'en ai une qui ne tiendrait pas dans quatre pièces comme ici. Eh bien maintenant, il faut aller aux sources pour nous-mêmes combattants nationalistes, connaître la vérité des faits. Par exemple, si on a deux secondes, si je peux parler de ça, je lisais hier soir la réponse que 4 ou 5 ou 10 personnes, je ne me souviens plus, ont fait à l'amiral de Gaulle qui avait écrit un livre sur son père. Je crois que c'est riposte à l'amiral de Gaulle. Mm-hmm. Bon, alors j'avais lu un chapitre qui ne m'avait pas emballé, et puis je vois le chapitre qu'a les circonstances de l'évasion du général Giraud de Königsberg en Allemagne. Et je vois, d'après les mémoires du général Giraud...
C'est d'ailleurs Henri-Christian Giraud, le petit-fils du général, qui a été à l'initiative de ce livre.
Oui, mais je crois d'ailleurs qu'il a un chapitre dans le livre. Et je vois que le général, à l'âge qu'il avait, s'évade d'une citadelle avec un apic de 40 mètres, et comme tout prisonnier digne de ce nom, surtout que lui, en tant que général, il était libre peut-être de sortir à condition qu'il donne sa parole qui ne s'évaderait pas. Il n'a jamais donné sa parole. Mais il y a un truc qui... Mais j'ai lu les 20 pages, je n'ai pas arrêté, j'avais sommeil, j'ai lu les 20 pages. Giraud traverse la frontière. Il se réfugie en Suisse. Et de Suisse, il passe en zone libre. Et que fait Giraud? Il va à Vichy, où il est invité à manger par le maréchal Pétain. Bon, Laval le reçoit. Mais oui. Il circule dans la zone libre totalement, en toute liberté. L'Allemagne, par la voix d'Abetz, qui représente Adolphe à Paris, lui dit « Vous êtes en train de briser la collaboration qui s'était instaurée entre le gouvernement de Vichy et mon gouvernement. » Et Giraud dit « Mais ça n'est pas ma politique. C'est votre politique, ça n'est pas ma politique. Et est-ce que vous voulez rencontrer M. Abetz ?»« Ben, j'accepte de rencontrer M. Abetz. Comment peut-on faire ?»« Eh bien, vous allez passer la ligne de démarcation. Voilà un laissez-passer. » Et vous allez voir M. Abetz. Giraud va voir M. Abetz, discute. Abetz lui dit, le Führer voudrait qu'en tant qu'officier supérieur, général, un des plus hauts gradés de l'armée française, vous rentriez en Allemagne. On est prêt à vous faire un pont d'or, à ne pas vous remettre en prison, vous donner même une fonction là-bas, mais vous ne pouvez pas être en cavale. Et Giraud refuse. dit à Abbott qu'il n'obéira pas à ce genre d'ordre et qu'il en a rien à foutre de ce que pense Hitler. Et Giraud repasse la ligne de démarcation. Alors quand tu lis ça, tu te dis, mais enfin merde quoi, alors qu'est-ce qu'il faut croire dans tout ce qu'il nous raconte? Je prends un autre bouquin, toujours pour mon bouquin, parce qu'on ne peut écrire des bouquins qu'en se plongeant dans l'histoire réelle. Bon, c'est un anglais foncièrement anti-viciste et foncièrement anti-Pétain. On se demande de quoi il se mêle, mais enfin, il est foncièrement anti-Pétain. Bon, il accuse même Pétain de faire des partouzes à Vichy. Oh. Bon, oui, dans le bouquin. Ça s'appelle la ligne de démarcation. Hein, la ligne de démarcation. Bon, c'est une enquête sur les 1200 kilomètres de ligne de démarcation. C'est pas idiot comme idée. Le gars va dans tous ces bleds qui ont disparu de l'histoire, mais qui était sur la ligne de démarcation pendant la guerre. Et il y a des anecdotes absolument incroyables. Alors il arrive dans ce qui était un bistrot qui était sur la ligne de démarcation, juste en limite de la ligne de démarcation. Hein? Alors, il y a une vieille qui est là. Madame, vous étiez là pendant la guerre? Ah oui, j'étais là. J'étais un point de passage. Ah bon, dit l'anglais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est par là que passaient les évadés de France. Ah bon? Et elle sort une boîte à biscuits qui est planquée dans un coin. Et cette boîte à biscuits, hein, est remplie de cahiers d'écoliers. Et écrit à la main, hein, à la plume, comme on écrivait autrefois, il y a des centaines, des milliers de noms. Hein, français, indochinois, soldats de l'armée d'Afrique, soldats nord-africains, l'endroit d'où ils se sont évadés, en zone occupée, hein, le jour où ils sont passés, et en face, il y a un prix. Alors, l'anglais anti-Pétain, anti tout ce que tu voudras, dit à la bonne femme, mais qu'est-ce que c'est que ce prix? Mais parce qu'on leur remettait un casse-croûte, un verre de vin, un casse-croûte, du beurre, un peu de beurre, hein, et alors là, c'est casse-croûte sans vin, là, c'est casse-croûte avec vin. Mais pourquoi vous marquez ça? Eh bien, parce que toutes les semaines, les gendarmes venaient recopier le cahier pour qu'on soit remboursé. Vous étiez remboursé par qui? Mais par le gouvernement de Vichy.
Oula.
Bon, alors, bon, ben, voilà, il n'y a plus rien à lire, il n'y a plus rien à dire, quoi. Ouais. Bon, qui a eu des problèmes? Moi, j'étais gosse pendant l'occupation. Qui a eu des problèmes en France? Mais enfin, qui s'est transformé l'histoire d'une telle façon qu'aujourd'hui, on croirait que les Français, toute la journée, rampait dans les rues, la grenade entre les dents, hein, pour aller faire sauter les boches dès qu'ils allaient pisser, mais ces pauvres boches, ils pouvaient pas bouger de leur blocos, mais tout le monde était résistant. Mais comment les boches ont pu rester là pendant 5 ans? On peut quand même se poser la question. Alors voilà ce qui me tracasse. Je dois dire que l'écriture de ce livre ne m'a pas relevé le moral, bien au contraire, ça me donne de la détermination pour le combat, pour le futur que je prépare, puisque ayant mis le château en vente après 20 ans, je peux dire, de bons et loyaux services, je compte rapatrier le tout sur Paris et créer sur Paris la CUF telle qu'elle existait il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'avec un petit bar, un restaurant, un bureau de diffusion de tracts et tout, enfin, recréer dans l'esprit ancien combattant sur Paris, hein, l'état de résistance où nous étions au début du combat Algérie française. Oui.
Oui, je voudrais vous signaler la publication d'un livre extraordinaire. J'en suis aux 2/3 seulement, mais il fait 750 pages.
Oui.
C'est le livre du général Bernard de Boisfleury,
oui,
qui vient de publier un document extraordinairement complet, qui a été vérifié par la SDN, c'est-à-dire par, n'est-ce pas, les anciens des services spéciaux, sur l'armée au sens militaire du mot. Il est lui-même ancien élève officier à Aix-en-Provence, l'armée dans la résistance.
Oui.
Et c'est absolument passionnant.
Oui, c'est sûr.
Et c'est d'un détail de documentation, de précision, on découvre des personnages comme un certain Gonan en Lorraine qui a joué un rôle considérable, on découvre les ordres et les contre-ordres du général Koenig après le débarquement, on découvre le drame de certains maquis ou pas maquis et autres. Je crois que c'est un livre qui est très consolant. Parce que on se rend compte que des gens sont capables d'actes de grand courage, de grand héroïsme, comme cette petite dame avec sa boîte à biscuits qui distribue des casse-croûtes aux gens. Ouais. Bon, elle se fait rembourser parce qu'elle est très pauvre. Enfin, je veux dire, il y a rien de choquant à ça.
Elle se fait rembourser parce que c'est prévu.
Parce que c'est prévu.
C'est prévu, c'est la loi. Voilà.
Et c'est la loi. Ah. Alors bon, sur le rôle de Laval, on pourra avoir des réserves.
Mais dans mon bouquin, je ne parle pas de Laval. Rien. Je ne réhabilite rien.
J'imagine.
Je dis tout simplement qu'il faudrait peut-être, une fois pour toutes, parler de la vérité. Et ces gens qui veulent pas qu'on fasse une histoire officielle de la colonisation française, mais qu'on ne fasse pas non plus une histoire officielle de tout
Et alors, je voudrais revenir à un point de détail, puisque vous parlez de cet Anglais foncièrement anti-français, ce qui ne surprend pas mon âme bretonne, puisque j'habite juste en dessous d'un moulin où les Anglais ont pendu un certain nombre de mes ancêtres. Bon, on les a tués après, hein, les Anglais en question. Ils sont toujours enterrés d'ailleurs là-bas. Mais personne n'est venu les réclamer. Mais le rôle très bizarre, pendant toute la guerre, d'après le général de Boisfleury, du service de renseignement britannique, du SOE, qui finalement, quand des résistants deviennent un peu trop efficaces,
Il leur arrive des
gros malheurs. Hein. Ouais, peut-être que moins il y a de France, plus ça fait de plaisir à l'Angleterre.
C'est pas nouveau, ça.
Dans ce que racontait, dans cette anecdote que tu rapportes, Roger, à la fin de la boîte à biscuits, en dehors de toute considération historique et de tout contexte historique, il y a quand même une chose qui me paraît renversante dans la démonstration, par la force démonstrative que ça a sur l'évolution des mœurs et des comportements. Voilà, donc un café, si j'ai bien compris, dans lequel les évadés viennent, donnent leur nom, reçoivent un casse-croûte à l'époque des restrictions, avec pain, beurre, jambon, ou saucisson, ou pâté, ou je ne sais quoi, un verre de vin, ils donnent leur nom, on écrit soldat Jules Dumollard, 93e RC, il s'en va, alors 3 francs 6 sous pour le casse-croûte, et les gendarmes arrivent, et la grand-mère leur présente, une avenante personne à l'époque, présente le cahier, et il lui demande pas une ampliation en 3 exemplaires contresignée par le machin, ils disent voilà, c'est vrai, ils font une copie, c'est envoyé au trésorier payeur général, j'imagine, qui paye. C'est-à-dire que c'était un pays où on faisait confiance aux gens.
Voilà.
Quand ils disaient, j'ai donné un casse-croûte à un militaire de passage, et voilà, vous me devez donc 3 francs 6 sous, et ben on payait. Aujourd'hui, pour être remboursé d'un billet, d'un timbre, un poste, parce que vous avez envoyé un truc à une administration, il faut faire 12 messages amplifiés, photocopiés, contresignés, avec certification au commissariat de police, coup de tampon de votre député, empreinte d'identité de toute la famille, bulletin de décès de l'arrière-grand-mère, enfin c'est... Donc ça veut dire que, à force de vivre d'une façon de plus en plus sale, on a fini par tous sentir la pourriture. Ouais. On est dirigé par des pourris, on sent la pourriture.
Et je disais au marquis tout à l'heure, hein, que là, je fouine, je n'ai pas de prétention, mais je crois que j'étais un bon reporter, un bon journaliste, je sens les coups. Et je découpe, donc, en tant qu'un des dirigeants du front, je reçois la revue de presse tous les jours, bon, je me fais une petite revue de presse, et ma secrétaire me fait une petite revue de presse. Hein. Et en plus, je fouine partout. Et l'autre jour, je vois un supplément illustré du Monde, comme ils font paraître toutes les semaines maintenant, hein, et là, hein, c'est une beurgette, c'est-à-dire une beurette devenue bourgeoise, hein, et il y a quatre pages sur une fille, hein, qui est d'origine algérienne, qui est belle, qui est habillée à la dernière mode, hein, qui se dit française à 100%, qui a déjà écrit un livre après avoir fait de bonnes études, hein, et qui, son rêve, c'est de devenir encore plus française, et puis de gagner bien sa vie en travaillant, manger du caviar, boire du champagne. Elle épousera, dit-elle, l'homme qu'elle aime, peu importe la religion. Et je me dis, enfin, en voilà une qui est bien chez nous, qui est bien chez elle. Elle est chez elle. Bon, ça console un peu. Alors, cette beurette, elle n'aime pas le mot, dit-elle, beurgette, hein, qui vit à Montmartre dans un petit studio, qui gagne bien sa croûte et tout ça, qui est française à 100%, hein, elle a écrit un livre qui a bien marché. Et puis là, elle en prépare un autre. Eh bien, cette fille qui est venue chez nous et qui se sent française à 100%, quel est le prochain livre qu'elle écrit? C'est à tomber à la renverse. Elle écrit un livre sur un officier français devenu tortionnaire en Algérie. On n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon, vient de rentrer, là, à l'Académie française, une fille d'origine algérienne, anti-française. Anti-française. Et j'ai reçu... Hein, parce que ça sert quand même à quelque chose de parler. J'ai reçu une lettre d'une dame qui me dit, Monsieur Hollandre, je vous envoie ce mot, j'étais en classe avec elle, une pied noire. Elle était en classe avec elle, dans une classe où il y avait des petites juives, des petites, je dis pas des petites, c'était pas mixte à ce moment-là, des petites juives, des petites chrétiennes, des petites musulmanes, hein, et les autres filles l'appelaient Zozo. Bon, et elle s'entendait bien avec tout le monde. Bon, et cette fille, hein, est rentrée dans les plus grandes écoles, dans les plus grandes écoles de métropole, a eu des diplômes, hein, que moi je n'aurai jamais, et a quitté son école supérieure en France métropolitaine pour rejoindre le FLN. Bon, mais elle n'a pas trouvé au FLN ce qu'elle pensait dans ses idées sur la condition féminine future après l'indépendance de l'Algérie. Et elle a quitté l'Algérie à ce moment-là. Pour devenir prof de français aux États-Unis. Mais tous ces gens qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie, à la rigueur, on pourrait dire, bon, ben, au moins ceux-là ont eu le courage, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Et elle, non seulement qu'est-ce qu'elle fout ici, mais pourquoi a-t-elle été admise à l'Académie française, alors qu'elle le dit, elle est foncièrement anti-française? Alors c'est ça, parce que ça va peut-être m'empêcher de dormir, et peut-être vous, puis peut-être des gens qui écoutent Radio Courtoisie, mais ça n'empêche pas de dormir l'ensemble des Français. Encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Moi, je crois qu'il y a une impudence aujourd'hui à trahir tout ce qui est français dans notre malheureux pays qui dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et un journaliste me disait, il était venu voir, il dit, alors Monsieur Hollande, vous quittez la région? J'ai dit non, le CNC ne quittera pas Neuville-sur-Barangeon, on compte y laisser une antenne. Mais je lui disais pourquoi je voulais monter quelque chose de sérieux sur Paris, hein, qui pourrait ressembler à la CUF il y a 30 ans. Mais parce que nous allons arriver au moment où ils vont vouloir faire ce traité franco-algérien. Moi, je suis pas un matamor, moi j'ai pas été en Algérie pour tuer des gens, moi j'ai tuer les gens qui étaient les ennemis de mon pays. Je suis navré que les anciens d'Algérie aient été aussi cons pour laisser trahir le combat qu'ils ont mené là-bas, parce que l'armée d'Algérie, ça n'était pas rien. On parle des paras, on parle de la Légion, mais il faut quand même pas oublier que les trois quarts des unités insurgées au moment du putsch d'Alger étaient des unités d'appelés. On ne le dit jamais parce que ça les ennuie, ça leur pose des problèmes. Et les trois quarts, même quoi, 99% des appelés en Algérie, quand ils étaient dans des unités bien commandées, ont fait leur devoir. Hein. Certains forcés et contraints, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec panache. Alors demain, on va signer un traité d'amitié avec l'Algérie. Bon, moi je veux bien, mais je voudrais être parmi ceux qui vont poser leurs conditions. Et si, dans quelques mois, on n'est pas capable, sur ce sujet, de mettre 10 000 ou 15 000 personnes dans la rue, eh bien, on n'a plus rien à foutre en politique, et il vaut mieux baisser les bras aujourd'hui. Moi, je vais essayer de préparer la manifestation future, hein, qui dira, oui, un accord de paix, puisque la paix est faite. Oui, on oublie, mais des deux côtés. Ah bah oui. On ne nous emmerde pas, on continue pas à insulter la France. Et puis, un accord de paix, mais pas n'importe quel accord de paix, et c'est pas à la France de baisser le pantalon. Peut-être pas à l'Algérie non plus, mais pas à la France de toute façon. Voilà, alors c'est ça mon combat. Je n'ai pas du tout décidé d'arrêter. Des gens disent, Hollande, il laisse le château. Hollande, ça fait 20 ans. Hein, ça fait 20 ans que je me défonce au château. Ça fait 20 ans que je fais les fins de semaine, les fins de quinzaine et les fins de mois. J'ai mis ma culotte, ma santé dans cette affaire. Hein? Alors, on ne part pas la queue entre les jambes. Le CNC ne doit rien à personne. La vente du château va se faire. Les gens qui ont pris des parts officiellement se verront rembourser les parts avec le pourcentage que donnera le prix de la vente. Et on continue le combat. Seulement, j'ai 77 ans, bientôt 78 ans. Je suis mort de fatigue et je ne peux pas continuer à tenir ce château avec une ou deux personnes, hein, dont Nadia qui est là-bas depuis 17 ans et qui, bien souvent, passe les hivers toute seule dans le château avec son gosse. Voilà. Alors, c'est pour ça. Mais pour moi, le combat n'est pas terminé, mais il faudra que ça devienne un combat sérieux.
Mais il n'y a pas un peu d'amertume dans le...
Si, il y a beaucoup d'amertume. Si, il y a beaucoup d'amertume, mais... Mais quand je dis je n'ai pas trouvé de relève, alors les gens disent, mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui, celui-là? Il n'y a pas de relève. Mais enfin, on ne gère pas un château hôtel comme ça avec deux personnes, c'est-à-dire une personne et moi. À Neuville-sur-Barangeon, il y a deux associations d'anciens combattants. La nôtre, le Cercle National des Combattants, on travaille à deux, hein, avec quelquefois des gens qui viennent aider. Et puis il y a la Fondation Maginot, elle est subventionnée par l'État. Ils sont 35 à 38 l'hiver et 45 l'été. Cuistot, aide-cuistot, saucier, magasinier, directeur, sous-directeur. Bon, forcément, si on avait le pognon pour payer ne serait-ce que la moitié du personnel, même 7 ou 8 personnes, avec des fonctions et des payes afférentes, puis le 13e mois, la prime et ceci, bon, mais c'est sûr, mais trouver un con comme moi qui fera ça à l'œil, hein, pendant 20 ans, hein, sans être payé, et en mettant une cotisation mensuelle de 8 à 12 000 francs par mois, je dis que c'est impossible, et je dis, bon, ben, avec beaucoup... je suis très humble quand je dis, je ne trouve pas la relève, parce que s'il y a avait eu un mec qui se pointe et qui dise moi je prends, hein, et qui me montre les capacités, bon, j'aurais peut-être laissé les clés. Mais là, je ne me sens pas autorisé à laisser les clés à qui que ce soit, parce que rien ne sera pillé dans le château. Hein, je pensais le vendre à la fraternité, hein, c'était à deux doigts de se faire. Ils n'ont pas pu prendre parce que je crois qu'il y a eu des bisbilles chez eux. Si la fraternité avait pris, on faisait un prix très 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 bas, et on leur laissait tout en état de marche. Ils arrivaient avec leur boîte d'allumettes, ils avaient qu'à allumer les feux, il y a 300 lits, il y a 4 cuisines, il y a 3 restaurants, il y avait tout. Ça ne s'est pas fait.
Et c'est un ancien séminaire.
Pardon?
Et c'est un ancien séminaire, justement.
Un ancien séminaire, je pense que c'est un bon point pour nous, que le curé de chez nous aujourd'hui reprenne ce séminaire. Bon, ça ne s'est pas fait, ça n'est pas de ma faute, ça n'a pas été une question d'argent, on était prêt à faire un très gros sacrifice et de leur laisser de façon que ça reste dans la famille d'idées. Alors il y a des gens qui me disent, mais comment, monsieur Land, mais qu'est-ce que ça prend? Vous fermez le château? Alors, je regarde le gars et je dis, mais je t'ai jamais vu, toi, depuis 20 ans. Oui, mais je comptais venir le mois prochain avec ma femme et mes enfants. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, je remercie tous ceux qui m'ont aidé pendant 20 ans. Je remercie ceux qui sont venus. Je remercie tous ceux qui ont fait l'effort de faire ces 200 kilomètres. Ça n'est rien du tout à notre époque parce que les bagnoles ont toutes 4 roues, un volant et un klaxon. Donc, on peut arriver facilement à 200 kilomètres de Paris. Mais je dis et je répète que pour moi, le combat n'est pas terminé, mais je ne le mènerai pas avec n'importe qui. Je ne le mènerai pas avec des rigolos. Hein, je raconte toujours que j'en ai un peu marre d'entendre des gens des fois à des réunions dire qu'il faudrait que le Front arrive au pouvoir pour renvoyer tous ces gens chez eux. Moi, je dis que j'en ai marre d'entendre des conneries. On ne les renverra pas chez eux. On pourra renvoyer les voyous, on pourra fermer les frontières, mais pour, si on veut être les patrons chez nous, ben, si nous sommes chrétiens, il faudra se montrer de bons chrétiens. Si nous sommes des citoyens français, il faudra se montrer de bons citoyens français. Il faudra être des exemples dans notre propre pays, de façon que personne ne puisse nous cracher à la gueule avec juste raison. Moi, j'ai toujours mené ma vie de façon que personne ne me crache à la gueule. Voilà, c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je continuerai le combat.
Et c'est pour ça qu'on t'aime. Merci, Roger. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal du mercredi soir. C'est bien ça, hein?
Oui, oui.
Non, parce que comme vous dites rien, je...
Bon. D'habitude, quand je le dis, je me fais taper sur les doigts. Mais alors, je n'ose plus.
Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Je vous ai très bien silencieux.
Ah, mais écoutez, je ne pouvais pas placer un mot avec M. Roger Hollande. Mais je suis comme lui, sauf que j'ai quelques mois de plus que lui. Mais moi aussi, je mène des combats depuis des années.
Ouais. D'ailleurs, dans votre livre « Droit vers l'azur », vous avez évoqué la période dont il est question.
Ah oui, oui, aussi, je l'ai vécu aussi, ça. Moi aussi, j'étais dans la résistance. Et moi aussi, je n'admets pas cette vérité imposée. Il y a un mot que j'ai pas entendu. Nous sommes en plein totalitarisme, en réalité. Il faut être objectif. On n'a pas le droit de dire certaines choses. On n'a pas le droit de dire la vérité, vous l'avez dit. Et ça, non seulement en ce qui concerne la France, mais en ce qui concerne le catholicisme. Et là, je rejoins ce que vous disiez de mon ami Michel de Jaeger. C'est même pas un anti-christianisme qu'il y a, c'est un anti-catholicisme.
Ah, c'est de la christianophobie ou de la catophobie, on peut dire. Mais il a préféré employer le mot de christianophobie.
Oui, c'est plus facile.
Puisqu'on parle de judéophobie, d'islamophobie, d'homophobie, de phobophobie. Finalement, on vit dans un monde de phobophobie.
Parce que si vous prenez la Révolution française, qui était anticatholique, elle était essentiellement anticatholique. Elle n'était que secondairement politique et sociale. Eh bien, elle n'avait qu'un objectif, c'est de détruire non pas le christianisme, mais le catholicisme. Il y avait parmi les révolutionnaires un certain nombre de protestants qui se trouvaient parfaitement chez eux. Bon, enfin, actuellement, nous ne sommes plus en 1789, nous sommes à une époque qui, à mon avis, est bien pire. Et j'ai eu l'idée de lancer une petite série de bouquins très très brefs, mais percutants.
Oui, alors, permettez-moi de vous interrompre une seconde, parce que justement, c'était... C'est la raison pour laquelle je voulais que vous vinciez ce soir.
Bien. Ça va, oui.
C'est bon. Le vincier, ça va?
Oui, très bien.
Je me méfie parce que j'ai pas l'habitude. Je m'entraîne à la maison de temps en temps, mais on sait jamais. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis content que vous soyez là ce soir, parce que il me semble que vous êtes finalement à l'origine, certainement plus Nolens que Volens, de ce qui arrive avec Science et Vie autour de l'affaire du Saint-Suaire. Non pas que vous soyez l'auteur de la mystification ou la mystigrification de Science et Vie, mais et peut-être que vous avez été un peu bavard. Hein.
Mais écoutez, moi je suis très content d'avoir publié quelques mois avant une réfutation de tout ce qu'ils ont raconté. J'ai fait, donc je disais, une série de petits livres, la désinformation autour d'eux, autour de Jésus et de Marie. Ça, c'est pour l'ami Duquesne, c'est un autre débat.
Pas le diffuseur. Hein.
Pas le diffuseur, non, l'autre, Jacques, que j'ai flanqué à la porte des écrivains catholiques, soit dit en passant, mais enfin passant.
Tiens, alors le président de l'Association des écrivains catholiques a fait savoir à Monsieur Jacques Duquesne qu'il n'était plus le bienvenu.
Ah bon, on l'a barré tout simplement.
Carrément,
bah oui. Il se dit catholique, il écrit dans la croix, mais enfin, pour nous, ce n'est pas une évidence, son catholicisme.
C'est pas une preuve suffisante.
Alors donc ça, c'est un autre petit bouquin qui est sorti récemment. Je vais en sortir un sur l'origine de l'homme, un sur les croisades. On va voir comment les méchants croisés font des bobos aux gentils musulmans. Enfin, ce sera plutôt au contraire, enfin. Et puis, je disais, là, j'avais sorti un petit livre sur la désinformation autour du linceul de Turin. Et justement, ça a joué un double rôle, ce petit livre, un petit peu inattendu. Le dernier paragraphe, je le consacre à une prochaine attaque qui se préparait. On voulait opérer un amalgame entre le Saint-Suaire, la tunique d'Argenteuil et aussi le Suaire de Viedo. Donc on renonçait au XIIIe, XIVe siècle, on renonçait au carbone 14, mais on flanquait ça au VIe, VIIe siècle, ce n'était pas beaucoup mieux. Et j'ai indiqué qu'il y avait un gros sponsor américain. Alors ces gens se sont approchés de moi, gentiment, pour savoir ce que je savais. Ils ont vu que je savais à peu près tout, et ils m'ont montré qu'eux, ils savaient tout. Et alors ils m'ont proposé de passer dans leur film, préparer un film pour Canal+, de passer dans le film un petit bout d'une rondelle d'interview, comme ça se fait habituellement. Et puis je suis passé ici, dans cette même pièce, avec Didier Rochard, et puis j'ai répété mes accusations de manière légèrement plus vigoureuse et ricanante. Deux jours après, on a annulé le rendez-vous, et puis, ça fait deux mois, trois mois, plus jamais entendu parler de l'histoire. Alors là-dessus, j'entends parler de Science et Vie qui prépare quelque chose. Alors moi, gentiment, je prends contact, je leur dis, écoutez, je peux vous aider, bénévolement, je ne demande rien.
Trop aimable.
Et puis, lisez mon petit bouquin, ça vous instruira.
Si vous voulez vous pendre, j'ai une corde.
Ils ne m'ont jamais répondu, ils ne m'ont pas. Alors c'est tout de même assez étonnant, parce que ce dossier ne dit rien de nouveau. Ce sont tous les vieux canulars qui ressortent comme si on ne les avait pas réfutés 50 fois. Il ne dit rien de nouveau, ce qui n'empêche qu'on en fait un grand tapage. On a envoyé, je le sais, des textes aux journaux au moins italiens, la Stampa par exemple, et ils ont fait, alors au Jardin des Plantes ici, une conférence de presse à laquelle ils ont oublié de m'inviter, soit dit en passant. C'est dommage parce que j'aurais pu intervenir, les éclairer un peu. Et là, mon ami Paul-Éric Blanru, président des éthiciens. Je dis mon ami parce que nous avons passé sur France 3 très amicalement, mais très contradictoirement, je dois le dire. Il malaxe un linge, tout ça, dans de la flotte. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Parce que je l'ai vu à la télévision. Je n'y étais pas, mais j'ai vu à la télévision. Qu'est-ce qu'il fabrique? Eh bien, fabriquer un faux visage du linceul. Alors, il met des colorants, il met des bidules, il met de machin, et il sort un truc. On voit que ça veut imiter le visage du linceul, ça c'est sûr, il y a de ça. Mais c'est le problème, alors malheureusement j'y étais pas, et quand j'ai suis intervenu sur France 2, je n'avais pas vu ça. Sans ça, j'aurais pu faire remarquer une petite chose, c'est que c'est bien joli de parler de peinture, on peut faire toutes les œuvres que l'on veut avec des peintures, mais l'image du sanctuaire n'est pas une peinture, et ça, depuis plus de 25 ans, on le sait de manière absolument certaine. Et cette histoire de peinture sur laquelle Science et Vie s'est emballée, elle remonte quand même à 650 ans, alors comme nouveauté, c'est un peu réduit. Alors les autres arguments sont du même tabac. Ces gens donnent des affirmations qui contredisent ce que les experts ont examiné eux-mêmes. Et comme ça, le tissu n'est pas ancien. Bon, qu'est-ce qu'ils en savent? Les pollens n'approuvent rien. Le sang, c'est pas du sang, c'est de la peinture. Alors là, c'est un petit peu culotté, parce que... Et on y a trouvé des pigments. Or, justement, on n'y a pas trouvé de pigments, mais on a trouvé tous les composants du sang, et on a trouvé aussi le groupe sanguin. Quand même pas mal. Et puis, alors, je crois que le pompon, c'est une phrase qu'ils utilisent à la fin d'examen d'image. L'image du crucifié est trop parfaite pour être vraie. Voilà où nous en sommes.
C'est quand même extraordinaire parce que, en même temps, moi, j'ai tendance à, comme on dit maintenant dans la publicité, à positiver parce que, il faut remarquer deux choses, c'est que, ils auraient dû régler le compte du linceul avec la datation. Pour une fois, avec l'affaire du British Museum, c'était réglé, on n'en parlait plus. Voilà, 1270, point d'exclamation, c'est ça, hein?
1970 à 1960.
Voilà, point d'exclamation, il y avait le point d'exclamation qui soulignait le bonheur du type qui disait, le professeur, je ne sais plus quoi, Tait, qui disait, voilà, je les ai eus, j'ai enfin fait tomber. Bon.
Alors, ce qu'il y a,
mais c'est leur nom, ça leur suffit pas. Et ils reviennent sans arrêt.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que, là, cette histoire de carbone 14, j'explique, elle est ridicule. Il y avait des erreurs, des contradictions incroyables. J'explique dans mon petit plaquette la désinformation autour du linceul de Turin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont un effet inverse. Je suis persuadé qu'il n'y aurait pas eu d'ostension en 98 et en 2000 s'il n'y avait pas eu l'histoire de carbone 14. Parce que vous parliez des évêques, les évêques sont pas très, c'est pas très écuménique, vous comprenez ça, c'est pas très écuménique, alors ils n'aiment mieux pas en parler. D'ailleurs, pour la deuxième ostension, le cardinal, c'était Saldarini, à l'époque, oui, Saldarini, a envoyé une lettre à tous les évêques, c'est moi qui ai mis en français. Il n'y a pas une réponse. Tous les évêques de France, j'entends. Pas une réponse. Rien. Rien, aucun bruit dans aucun diocèse. Donc moi je crois que nos amis zététiciens et autres athées farouches ont tort de revenir toujours sur la question. Justement, on se demande comment va-t-on en reparler. Eh bien, ils nous donnent l'occasion. Moi, s'il n'y avait pas eu le carbone 14, je ne m'en serais pas occupé. Alors, résultat, Ils ont fait l'histoire de carbone 14, ça m'a agacé parce que c'était manifestement faux. Résultat, j'ai fait 223 conférences, 6 bouquins, beaucoup d'articles, une dizaine de télévisions, pas mal de radios, etc., etc., et puis 2 congrès internationaux. Voilà, le travail qu'ils m'ont donné, c'est moins urgent.
Je peux hasarder une explication, c'est que le carbone 14, à moins d'être physicien soi-même, il faut croire sur parole. Et exactement comme l'opération du Saint-Esprit ou l'Annonciation, il faut croire sur parole. Donc pourquoi est-ce qu'on les croirait eux plus que vous?
Ah mais ils ont les médias. Ils ont la force des médias. Et je veux dire qu'au début du carbone 14, c'était vraiment un écroulement. Oui. Même les gens d'église s'étaient effondrés. Puis on a remonté petit à petit et j'ai remarqué que déjà aux ostensions de 2000, les journaux étaient beaucoup moins affirmatifs. On mettait quelquefois dans des journaux une citation du professeur Rivin, carboniste qui n'a d'ailleurs pas participé aux datations, et la contradictoire de moi-même. Et puis débrouillez-vous avec ça. Alors, donc, on les a fortement ébranlés. Alors là, ils se disent, qu'est-ce qu'on va remettre? Eh bien, on remet ça, la même chose. Et on commence.
Oui, c'est ça. Ils utilisent alors les mêmes vieux arguments qui ont été contrebattus, mais dès le départ, puisque la première réunion du STOP, avait démontré qu'il n'y avait pas de pigment de peinture, qu'il y avait des traces de sang, vraiment. Et d'ailleurs, il y a un signe quand même qui est significatif, c'est que je ne sais pas combien étaient les membres du STOP, ils étaient vingtaine.
Oui, plusieurs dizaines. Oui,
bon, il y a eu de très nombreuses conversions.
Le principal
chimiste, même pas chrétien.
Le principal chimiste était Alan Adler. Alan Adler était juif et resté juif. Non, malheureusement, j'avais entrepris de lui apprendre le français. Ben oui, en 98 à Turin, j'ai appris à dire bonjour.
C'était bien ça déjà.
En 2000, j'ai appris à lui dire au revoir, mais on a profité pour honorer ses entrefaites. Ça, je m'étais dit, j'avais calculé le nombre de siècles qu'il fallait pour lui apprendre un vocabulaire suffisant.
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le projet de film dont vous venez de parler, et qui, je crois, va être diffusé par Canal+ au mois de septembre, mais c'est un projet dont j'ai entendu parler de très près. Par Taxi Production, et j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où le producteur ou le réalisateur ou l'auteur Didier Van Kovelaert s'est complètement retourné. Et on a cessé de vouloir vous interviewer, consulter des spécialistes dont la foi catholique était affirmée. Il y a eu manifestement un bouleversement, alors que les conversations avec le producteur... Bon, alors Van Kovelaert est principalement un romancier. Le livre de Jimmy, l'histoire de quelqu'un qui se rend compte petit à petit qu'il est Jésus. Bon, c'est une très vieille hérésie qui est le docétisme, l'adoptionnisme. Enfin, ça a été condamné 50 fois. Tout d'un coup, petit à petit, Jésus se rend compte qu'il est Jésus, qu'il est fils de Dieu. Enfin, c'est absurde. Bon, et finalement, le fils de Dieu, c'est tout sauf qui il est. Quoi, c'est absolument extraordinaire comme sottise. Et je ne sais pas quel va être le film. Je crois qu'un spécialiste avait été approché pour relire les textes, pour éviter qu'il y ait des impropriétés de termes, et que finalement, le spécialiste en question, qui a pourtant été payé très correctement, n'a même pas eu à faire son travail, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on a fait appel à d'autres spécialistes que des spécialistes catholiques. Alors je suis assez curieux de voir ce que sera le film qui a déjà été un peu montré dans la presse.
Oui, je sais, c'est d'ailleurs de ce film que je fais allusion. Et là, j'apprends avec bonheur qu'il va peut-être sortir en septembre. Il devait sortir au moment
avec bonheur, vous allez peut-être un petit peu vite, non?
Non, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Ah voilà.
Et je ne suis pas seul à parler de ces choses-là. Moi, je vois mon ami Michel Reboul qui a fait un dossier 36 pages dans l'aventure de l'histoire.
Oui, excellent.
Et qui était excellent. Il y a d'autres gens. Et le problème, c'est qu'on
salue d'ailleurs, vous savez que Michel Reboul est une auditrice fidèle. Hein.
Ah oui.
Donc il faut la saluer au passage.
Très bien.
Ce qui est quand même curieux, oui, c'est cette espèce de regain, à mon avis positif, hein, c'est ce regain d'agression, d'agressivité, de violence, de machination contre le catholicisme, au moment même où arrive au Vatican un pape dont on a des raisons, on va en parler tout à l'heure avec Éric Lévêque, mais un pape dont on a des raisons de penser qu'il va surprendre le monde.
Je pense que vous n'avez pas beaucoup rencontré de clergés français récemment. Parce que dans le clergé français, il y a maintenant un mot qui passe pour un mot d'esprit, c'est qu'il faut prendre son pape en patience.
Oui.
Et que chaque jour qui passe, c'est un pape en moins.
Oui, mais pas tout le clergé.
Pas tout le clergé, non.
Vous présentez certains certain nombre d'amis prêtres.
Qui sont au contraire.
Ouais. Qui pensent au contraire que c'est une grâce inespérée.
C'est un miracle inespéré.
Un miracle, absolument.
Mais il y a une véritable révolte.
Et pas seulement des prêtres de la fraternité Saint-Pierre ou de la fraternité Saint-Pélis.
Non, bien entendu.
Des prêtres en paroisse qui sont absolument convaincus que Benoît XVI est résolu à sauver le catholicisme en restaurant la liturgie et en restaurant l'autorité du Vatican. Mais ça, on en parlera tout à l'heure.
Oui.
Intéressant, c'est que la mobilisation qu'il y a... Dès que, là, on a vu tout de suite, Adolphe Ier, ou Adolphe II, je ne sais pas comment il s'appelait, il a été tout de suite classé, ça a été balayé par un vent d'éclat de rire, parce que les mensonges de cette taille, quand même, malgré tout, ils finissent par s'effondrer. Et d'ailleurs, à propos de mensonges, j'ai une jolie histoire sur Laval, là, dont je ferai état tout à l'heure, qui est envoyée par un auditeur. Mais ce qui est frappant, donc, c'est... Ce qui est très intéressant à étudier, c'est d'abord la rapidité de la mobilisation. Hein? Benoît XVI est élu le
6-7.
Oui. À peine une semaine plus tard, le déchaînement commence. Donc, un déchaînement organisé, on voit bien que c'est pas des idées comme ça. Il y a tout de suite, on sent que les réseaux se mettent en place, ça se renvoie la balle, on se donne la parole les uns aux autres, c'est toujours le même système, c'est-à-dire Le Monde, La Croix, Le Pèlerin, Le Figaro, qui suit le mouvement,
l'ineffable Odon Valet,
qui est spécialiste de religion,
Spécialiste de religion, mais qui ne sait pas qu'au XXe siècle, on a canonisé Saint Pie X.
Oui, et puis qui visiblement...
Et qui pense que quand on canonise un pape, ça n'a rien à voir avec la politique conduite par le pape. Ce qui est très directement le contraire de ce qu'a dit Pie XII quand il a canonisé Saint Pie X.
Je crois que Valet, on le convoque plutôt pour le côté amusant de la chose, quoi.
Je trouve pas drôle.
Je me fais bien rire des fois.
Quand vous parlez d'une mobilisation, mais elle est permanente, la mobilisation.
Oui, mais il y a eu un regain très net là.
Dès qu'il y a une occasion. Dès qu'il y a une occasion.
Et donc, à mon avis, c'est un signe.
Mais
positif.
En ce qui concerne, une chose qui me passionne, c'est la raison pour laquelle tous ces gens attaquent toujours le sanctuaire, et spécialement le sanctuaire, alors que si c'était le faux qu'ils disent, je ne vois pas quel intérêt ils pourraient y porter.
Bien sûr.
Alors la question que je me pose, est-ce qu'ils n'attaquent pas parce qu'ils y croient ? Et je suis persuadé qu'ils croient à l'authenticité, que ça les dérange et que c'est pour ça qu'ils l'attaquent. Sans ça, ils pourraient parler de toutes sortes d'autres reliques, ils pourraient parler de toutes sortes de choses, si c'était vraiment ça qui les intéressait.
Oui, parce que des reliques improbables... Les deux crânes de Saint-Lazare, il y en a peut-être un de trop, quoi. Bon,
la question d'ignorantin...
Il y avait peut-être deux Saint-Lazare aussi.
On l'a peut-être coupé en deux.
Une question d'ignorantin, j'en représente quelques-uns, peut-être, qui écoutent Radio Courtoisie. Si le linceul est authentique, qu'est-ce qu'il prouve sinon qu'un monsieur a été crucifié il y a 2000 ans
qu'il
a ressuscité.
Oui, attention, le problème, vous avez la position d'Yves Delage qui était un agnostique, un professeur agnostique, académicien, un grand bonhomme. Au début du siècle, il disait le Christ étant un personnage historique, pourquoi n'aurait-on pas gardé son linceul? Et il pensait que une image était formée par ce qu'on appelait la vaporographie, une des nombreuses hypothèses qui ont été émises et qui ne tient pas la route. Seulement, le problème, c'est la nature précisément de cette image. Et cette image est une légère roussissure extrêmement superficielle avec une sorte de tramage. C'est-à-dire que les parties claires ont moins de fibrilles roussies que les parties foncées. C'est extraordinaire. Et de plus, l'image est projetée perpendiculairement au tissu, alors que le tissu n'était pas horizontal.
C'est ça.
Ben, vous avez...
Et elle a la même qualité à l'envers, et, enfin, sur le dessus et sur le dessous du corps.
Oui, ce qui est complètement. Absolument. Ce qui est aberrant aussi, il n'y a pas de pesanteur qui est jouée. Et oui. Il y a ça, il y a beaucoup d'arguments de ce type-là. Et puis alors, il y a une chose aussi certaine, c'est que l'origine du rayonnement, pour qu'il puisse faire. Ça ne peut être que le corps lui-même.
Ouais.
Il ne peut pas être venu de l'extérieur. Donc, vous voyez qu'on arrive à l'idée. La notion de résurrection. Et c'est ça qui est insupportable.
C'est tout simplement l'évangile, ils virent et ils crurent.
Oui, c'est ça. Exactement.
Tout simplement l'évangile. Saint-Pierre et Saint-Jean qui arrivent tous les deux au sépulcre. Mais... Saint-Jean qui reste à la porte par respect, excuse-moi Serge, oui. Saint-Jean qui reste à la porte par respect pour Pierre, et Pierre se penche.
Aussi parce que c'est un Cohen, hein, et qu'il ne peut pas entrer dans un tombeau.
Ah oui, enfin, ça, c'est en effet un point important.
Oui. Ah oui.
Enfin, on a déjà la primauté de Pierre qui s'installe.
Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite il rentre.
Ensuite,
là, il y a un argument formidable, c'est que Jean est un Cohen. Il lui est absolument rituellement interdit d'approcher la souillure de la mort. Donc il s'arrête à la porte du tombeau. Pierre, qui lui est un pêcheur qui appartient à je ne sais quelle tribu, enfin je ne sais quelle famille, entre parce que il risque pas la souillure rituelle. Enfin, il risque la souillure rituelle, mais elle est beaucoup moins grave puisqu'il n'est pas Cohen. Il constate que le corps n'est pas là. Il voit d'ailleurs, probablement, on a expliqué le récit qui en est donné par le fait qu'il assiste au moment même où
les linges s'affaissent.
Et à ce moment-là, il doit se tourner vers Jean, et parce que Jean va faire un pas en avant, et il va quand même
se pencher à l'intérieur.
C'est-à-dire que Pierre doit lui dire, il n'y a personne, il n'est pas là. Et à partir du moment où il n'est pas là, la souillure rituelle n'existe plus, et donc un Cohen peut avancer.
Ouais.
C'est une histoire. L'évangile, la résurrection est quelque chose de fabuleux à lire 100 000 fois, parce que tout est dedans, tout est parfaitement cohérent, et trois témoins rituels donnent trois témoignages parfaitement cohérents qui seront
là-dessus, je me permets de renvoyer, elles ont été rééditées d'ailleurs aux méditations du Père Dupont.
Ah, oui,
bon, c'est la francisation d'un jésuite espagnol, Del Ponte, et ces méditations, contemplations du Père Dupont sont un monument de théologie. C'est ce qui a formé le recteur de l'île de Saint d'ailleurs, qui est un personnage véridique, François Lessu, et qui est un personnage historique, n'est-ce pas, et qui a été formé par les méditations du Père Dupont qui lui avait été donné excusez au bon breton de mettre en avant sa Bretagne, mais qui lui avait été donné par le Père Rigoleuc, le Père Ubi, qui étaient les missionnaires bretons au XVIIe siècle dans le Morbihan. Et pour parler quand même des bonnes nouvelles, il y a cette nomination extraordinaire d'un évêque catholique devant Havane. Enfin,
oui.
Alors, Benoît XVI...
Monseigneur Santaine.
Monseigneur Santaine, il a déjà droit au titre de Monseigneur, puisqu'il est évêque nommé, n'est-ce pas? Et il sera consacré évêque à la rentrée, je ne sais pas exactement quand. Et on voit que le pape Benoît XVI a commencé à prendre un certain nombre de décisions qui montrent que tous les jours, il se passe quelque chose.
Alors, Monseigneur Santaine, je trouve que je connais sa famille, puisque c'est une très grande famille bagnolinque, de Bagnols-sur-Mer.
J'espère qu'il va apprendre le Vannetais, parce que son prédécesseur parle le Vannetais, et c'est assez bien vu.
Certainement apprendre le Vannetais, tant qu'il parle le catalan, il peut parler toutes les langues du monde. On suspend, on respecte la pause traditionnelle. Eh bien, nous poursuivons cette émission qui est devenue une conversation, en fait, parce que les sujets s'emboîtent assez bien les uns dans les autres, je trouve. Je sais pas. Oui, ça vous va? Tout le monde s'entend?
Moi, ça me va très bien.
Oui,
ouais.
C'est bien. Alors, vous allez avoir le temps de parler ce soir, Marc.
Ah oui, alors faut que j'ai quelque chose à dire.
Ah bah, vous avez encore un petit moment pour réfléchir.
Vous m'interviewerez, ce sera plus facile.
Très bien. Avant de saluer Daniel Raffard de Brienne, que d'autres occupations appellent ailleurs, je voudrais vous signaler que son livre, ses livres d'ailleurs, sur la désinformation autour du sanctuaire et la désinformation autour de notre Seigneur seront, ils sont en vente naturellement chez l'éditeur qui est Duquesne Diffusion, à la librairie Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, mais samedi 23, c'est-à-dire samedi là, prochain,
oui.
Dans l'après-midi, vous aurez le plaisir de pouvoir rencontrer Daniel si vous ne le connaissez pas. Et si vous ne le connaissez pas, écoutez, je dis ça souvent, mais faites l'effort d'aller à Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, pour rencontrer Daniel Raffard de Brienne, parce que, tant pis pour sa modestie naturelle. Alors justement, profitons-en. C'est d'abord un homme charmant, drôle, remarquable et rare, voilà. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup et qu'il est avec nous souvent, pas assez souvent à son goût et au mien d'ailleurs. Je sais pas, enfin à votre goût, je sais pas, après tout.
Oh non, je peux venir, c'est facile, j'ai un métro pour Paris, pour Lille.
Il habite Lille et il prend le TGV comme on prend le métro, exactement.
C'est une heure, c'est
mais oui, mais
il y en a 14 dans chaque sens.
Voilà, c'est ça. La vitesse finit par briser les rêves. Et pour moi, prendre un train pour aller à Lille, c'est un rituel.
Oui, non, il n'y a plus de wagon restaurant.
Ferroviaire, c'est pas un rituel métropolitain.
Pas, en changeant deux, trois fois, vous pouvez faire ça en TER, je crois, pense.
Oui, on doit pouvoir mettre 5-6 heures.
Venez me voir, là, oui.
Donc, samedi 23, dans l'après-midi, chez Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, vous pourrez vous faire dédicacer.
Paris 7e, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Vous n'avez pas dit Paris 7e.
J'ai pas, Victor Hugo, écrivain français.
Métro, école militaire, si j'ai ça.
Exact, oui.
Et vous pourrez donc faire signer les deux derniers livres de Daniel Raffard de Brienne et les autres aussi, je pense, parce qu'ils
sont... Oui, il y en aura d'autres, sûrement.
Pour nos auditeurs de Tokyo et de Canberra, je peux donner un autre moyen de retrouver Daniel Raffard de Brienne.
Oui, oui.
Puisque ce qu'il n'a pas pu dire ce soir, il l'a écrit dans le Libre Journal numéro 356 qui sort des presses aujourd'hui. Donc il nous a donné un excellent article sur sa controverse avec Science et Vie sur le sphère. Alors j'en profite pour dire que il y a également trois pages sur la solution démocratique que vous avancez, Serge, on peut vous dénoncer.
Oui, moi,
pour le terrorisme.
Mais je pense qu'il faut le dire, il faut la livrer à l'auditoire, je crois. C'est pas la peine de les obliger à acheter le Libre Journal s'ils tiennent.
Ah bon?
Non, je suis content qu'ils achètent le Libre Journal, c'est pas ça. Mais je crois qu'il faut donner...
Le plan marketing, c'est pas terrible.
Moi, je pense qu'il faut le faire. Parce que je suis tellement fier d'avoir trouvé ça que je peux pas résister au plaisir de le faire.
Ah oui, de le diffuser, voilà.
C'est que... on a découvert, à travers l'affaire britannique, que les supposés islamikazés, islamikaz, comme disent les gens qui ne parlent aucune langue connue, étaient des citoyens britanniques. Des Pakistanais, deux citoyennetés britanniques. Ou un Caraïbe, deux citoyennetés britanniques.
Des sujets de sa gracieuse.
Et, oui, mais mieux que ça. Mais oui, voilà, des sujets de sa gracieuse. Donc ça fait deux, exactement, l'équivalent de ce qu'on appelle les beurs. Qui sont des citoyens français d'origine maghrébine. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a découvert, et j'explique comment et pourquoi on en est à peu près certain, que ces prétendus islamikazes n'étaient pas du tout des islamikazes. C'est très probablement, c'est plus que probablement, c'est certainement des jeunes des banlieues qui ont été payés pour faire un truc. Alors, il y a deux hypothèses. Ou ils ont été payés pour poser des bombes et se barrer. Ou, encore plus vraisemblable, ils ont été payés pour faire une opération de prétendu testing, puisque maintenant c'est comme ça qu'il faut parler, des méthodes de sécurité. C'est-à-dire qu'on est allé les voir en leur disant, voilà, on va vous donner un sac qui contient une fausse bombe, et vous allez prendre le train, le métro, et puis on va voir lequel de vous quatre va se faire arrêter, dans quelles circonstances. Ça permettra de tester la sécurité des transports londoniens. Pourquoi on dit ça? Eh bien parce que il y a quelque chose de totalement incohérent dans le comportement de ces jeunes. D'abord, sur les quatre, Il n'y en a aucun qui était connu comme fanatique islamique, même de loin. Il y en avait un qui était musulman. Les trois autres étaient inconnus au bataillon. Et c'était plutôt d'ailleurs des amateurs de hockey, de foot, de bonnes bières et de jolies filles. Il y en avait deux, le Jamaïcain et un des Pakistanais qui étaient mariés depuis peu de temps, qui étaient pères de famille. Déjà, ils avaient tous les deux des enfants, un enfant en bas âge. Et tous les deux étaient dûment mariés, avec des femmes qui attendaient un bébé pour les jours qui viennent, là. Ce qui met pas véritablement en situation psychologique de se faire exploser dans le métro. En revanche, ils avaient besoin d'argent. Donc l'hypothèse, c'est qu'on les a utilisés en les trompant pour poser des bombes et en se basant sur le fait que ça faciliterait les choses, étant donné que maintenant, les systèmes, on nous a dit que les systèmes de surveillance permettaient de repérer notamment des signes d'inquiétude sur le visage des gens qui étaient filmés par les télévisions de contrôle. Il y a eu des papiers dans la presse américaine. Il y a des traits particuliers et alors des logiciels d'ordinateur qui permettent d'identifier les visages de gens qui sont en état de panique ou de tension extraordinaire. Donc on a peut-être voulu éviter ce genre de choses en disant aux gens, vous jouez un rôle, mais en sachant bien que donc ils n'auraient pas le comportement de terroristes. Et on les voit d'ailleurs sur les photos et sur les vidéos, ils n'ont effectivement pas du tout le comportement de gens qui vont se donner la mort dans les secondes qui suivent, ou dans les minutes qui suivent. C'est pas cohérent du tout. Faut ajouter à ça le fait que ces gens-là sont partis, pour trois d'entre eux, de Leeds, où ils ont rejoint le quatrième à Luton. Ils sont partis de Leeds en voiture, ils se sont garés à Luton, là, ils ont payé le parking, ils ont pris le ticket de parking de leur voiture, ils sont allés chez le camarade, chercher le camarade qui habite à Luton, ensemble, ils sont allés à la gare, où ils ont pris 4 billets aller-retour. Et puis ensuite, ils sont allés dans le métro et dans le bus. Et là, il y a un survivant du bus qui a témoigné qu'il avait vu celui qui s'appelle Habib, je crois, Hassib, fourragé, totalement paniqué, dans son sac à dos, alors que d'habitude les kamikazes portent des ceintures d'explosifs. Là, ils avaient des sacs, et des sacs qui pouvaient désépauler très rapidement et abandonner sur place et partir en courant. Donc lui, le témoin en question, dit qu'il a vu le suicidaire, prétendu suicidaire, ouvrir son sac, fourrager dedans avec panique, ne pouvant rien faire, abandonner son sac et se précipiter vers la porte. Et à ce moment-là, l'explosion a eu lieu tout à fait à l'arrière du bus, c'est-à-dire vers la sortie du bus, alors que si elle avait eu lieu au milieu, elle aurait provoqué un carnage encore plus grand. Encore que celui-là était pas mal réussi. Donc ça, c'est la première chose. Ces prétendus islamistes sont probablement des gars qui ont été trompés. Ce qui veut dire qu'on peut faire exactement la même chose en France. Que si on a les moyens, on va recruter des beurs en leur disant on va vous donner de l'argent, alors on est des services de police, services de sécurité, vous n'en parlez à personne, on va vous donner des sous pour tester la sécurité du métro, ou alors on est des terroristes, on vous demande de poser des bombes parce que vous n'êtes pas connus, et on va vous donner de l'argent. Ça, c'est très possible, et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'endoctrinement particulier. Hein. Le type qui vend de la drogue, le type qui brûle des voitures, le type qui fait des trucs comme ça, il est parfaitement capable de faire ce genre de boulot. Les gars qui ont tiré avec des fusées de feu d'artifice sur les flics, qui ont jeté des cocktails Molotov sur les voitures,
dans les voitures de police
pour cramer et carboniser trois policiers, si on leur avait donné des bombes en leur disant, au lieu de jeter des cocktails Molotov dans une voiture, vous jetez une bombe dans le métro, ça faisait aucune différence. Ils le faisaient. Donc le danger existe, la réalité, c'est pas le pire de tout, c'est pas du tout que c'est des fanatiques religieux, contrairement à ce que tout le monde nous dit, parce que les fanatiques religieux, c'est quand même assez rare des gars qui sont prêts à se faire exploser avec leurs bombes, même chez les musulmans, ils sont fanatiques. Tandis que des gars qui sont prêts à faire des actions dangereuses, qui rapportent beaucoup de fric, ça se trouve très facilement, y compris chez les incroyants de pure origine française ou européenne. Bon, donc ça, c'est très inquiétant. Alors, en tout cas, on sait maintenant que on a un ennemi intérieur qui a la même nationalité que nous et qui présente un formidable danger.
Qui sait très bien prendre le métro.
Qui sait très bien prendre le métro, et puis qui en plus est dans la population hexagonale comme un poisson dans l'eau.
Mais là, avec les petits Anglais là en question, il y a un avantage supplémentaire, on les a abusés, puisqu'ils ont, pété avec leurs instruments, et au moins comme ça ils parleront jamais.
Mais c'est pour ça,
c'est surtout ça, c'est génial pas, le truc.
Alors il y a une autre raison qui est curieuse, c'est que, en général, les islamicas n'ont pas sur eux de papier. Pour retarder l'identification, notamment en Israël, où on sait que dès qu'ils sont identifiés, les forces armées israéliennes viennent et rasent la maison de la famille, des amis, etc. Bon. Par conséquent, on essaye de cacher le plus longtemps possible l'identité. Tandis que là, ils avaient leurs papiers. Mais il est évident que si on leur avait dit « Vous partez sans vos papiers », ils n'auraient pas marché, les gars, parce qu'ils auraient flairé le vent. Donc on leur a laissé leurs papiers. Et ce qui explique qu'on retrouve les papiers dans les décombres. Moi, au début, ça m'avait paru un peu bizarre, parce que ça me faisait penser au passeport du pilote retrouvé dans les décombres de la World Trade Center. Mais finalement, du World Trade Center. Mais là, il y a une espèce de cohérence dans tout ça.
C'est monstrueux.
Bien. Ben oui, mais c'est des esprits tordus. Derrière tout ça, il faut des esprits drôlement tordus. Alors, en tout cas, ce qui est certain maintenant, on a la démonstration en Angleterre, et comme en France, avec les incroyables événements du 14 juillet, parce qu'on semble accepter ça d'une façon tout à fait naturelle. Oui, par tradition...
Mais c'est tradition, c'est le mot qui est insupportable.
Voilà. Par tradition, on a brûlé 300 voitures.
On en est à 500 maintenant.
500, voilà. Dans 5 ans, on nous dira, par tradition, 50 jeunes femmes ont été violées à l'occasion de la nuit.
Oui, voilà, c'est ça.
Et puis, dans 10 ans, ça sera, par tradition, 200... jeunes garçons ont été culbutés à l'issue de la manifestation.
La traditionnelle Gay Pride, c'est comme ça que la radio d'État depuis plusieurs années présente la Gay Pride comme la traditionnelle. Et ils répètent cet adjectif et ils le répètent encore et encore.
Alors, et maintenant ça s'appelle d'ailleurs la marche des fiertés. Je vous invite à faire une vérification sur Google, c'est très intéressant. Le mot fierté au pluriel n'est utilisé que dans cette occurrence.
Oui, c'est la fierté, généralement. Et là, c'est les fiertés.
C'est la seule occurrence qu'on trouve pour l'utilisation de fierté au pluriel.
C'est curieux.
Ah, pour désigner les
mœurs plurielles.
Les mœurs plurielles.
Puisqu'on a changé de sujet.
Non, on n'a pas changé. Je voudrais terminer, si vous permettez, mon cher Goffman.
Le kamikaze du journal.
Oui, je voulais simplement que vous en laissiez un peu à découvrir aux gens qui achèteraient quand même le Libre Journal.
Bon, ben enfin...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, non, mais je vais pas tout gâcher. Alors...
Non, mais de toute façon, ils n'ont pas eu le temps de prendre des notes. Ils sont... Alors qu'avec le Libre Journal, ils peuvent faire des photos de pieds.
On approche de vos conclusions.
Leur entourage.
Voilà, ce que je crois quand même, il faut dire, c'est qu'il y a eu une solution. Voilà, il y a...
Voilà, étant donné que ce sont... la surprise voilà.
Étant donné que ce sont des citoyens français qui vivent sur les territoires français, il y a une solution.
Elle est démocratique.
Elle est parfaitement démocratique. Et qui même...
Nous sommes toujours très soucieux de ça.
Ah, mais moi, je suis, alors là, extrêmement soucieux du respect de la démocratie. Bon. Et elle est démocratique parce qu'elle a été expérimentée et avec succès. Et elle est encore appliquée avec réussite par deux des pays les plus certainement démocratiques de la planète... sur lesquels il n'y a absolument aucune possibilité d'émettre la moindre critique, le moindre début de commencement d'apparence d'ombre, de silhouette de critique.
Voilà. Alors on n'ouvre pas les enveloppes des Oscars, on ouvre l'enveloppe dans laquelle on reçoit le Libre Journal numéro 356. On y trouvera donc les noms de ces deux pays qui nous offrent un modèle de solution démocratique à la terreur islamique. La solution, bien entendu. On trouvera d'ailleurs également, sur le même sujet, des commentaires très intéressants de François Brignot, signature historique de la presse nationale. Donc Raffard de Brienne, sa controverse avec Science et Vie, je l'ai dit tout à l'heure, il nous l'explique lui-même avec beaucoup d'esprit. Un article très amusant. Reportage en Malaisie et au Brésil. Un éditorial pas inintéressant non plus de la Noé qui accuse la terre entière, les Anglais d'avoir triché, le CIO d'être corrompu pour la perte des Jeux Olympiques par Paris. Eh bien, nous croyons savoir et nous sommes que nous démontrons assez bien qu'il les a perdus lui-même, notamment en se pavant vanant à la tête de cette Gay Pride dont nous parlions à l'instant, ce qui a donné lieu à des photographies susceptibles de choquer beaucoup de jurés de membres du CIO. C'est ce que nous expliquons dans cet éditorial en plus, avec plus de détails. Voilà, nous faisons, alors c'est une fantastique mise en abîme, il y a une pièce à Paris en ce moment qui s'appelle Danger Public, c'est un public d'extrême droite qui surgit d'un seul coup dans un petit théâtre à la dérive parce qu'un critique d'extrême droite droite a fait un commentaire favorable, eh bien nous, sans être d'extrême droite, nous le disions à l'instant, nous faisons quand même un commentaire favorable à cette pièce. C'est notre collaborateur Jérôme Brigadier, que nous avons confisqué à Minute il y a déjà plusieurs années, qui nous... pardon Minute, pardonnez-nous confrères, mais vraiment, nous l'aimons trop, nous l'avons gardé pour nous. Donc, qui,
ça nous a coûté cher en rançon. Hein.
Qui est allé voir cette pièce d'Angers Public. Voilà, mille autres choses comme d'habitude, je m'arrête là parce que l'heure tourne et j'indique simplement qu'on peut nous retrouver gratuitement sur notre site internet francecourtoise.info. Pour 5 euros, on peut avoir ce numéro 356 dont je viens de parler, 5 euros ou un carnet de timbres. Et on peut s'abonner pour un an, 3 numéros par mois, pour la somme dérisoire de 110 euros. Alors c'est à l'ordre de SDB, 4 places France List, 75 € Paris.
Ah, pour ne pas quitter le Saint-Suaire, sur France Info, il a été déclaré qu'on pouvait faire des Saint-Suaires en série en appliquant un voile sur n'importe quel visage. Je viens de comprendre. Et toute cette histoire de la loi anti-voile, c'est pour empêcher les beurettes de fabriquer des faux chers. Ben voilà, tout est clair maintenant.
Comment vous écrivez France Info?
Ah ben, UNFAUX, bien sûr.
J'ai un message d'un auditeur qui dispose d'un bouquin par le père Jean Crozet, datant de 1783, et qui comporte un article important sur le Saint-Suaire. L'ouvrage est à la disposition de monsieur Raffard de Brienne.
Ah
ben, et il dit, le demander à l'antenne. Cet auditeur se fera un plaisir de l'envoyer.
Ah ben, s'il veut il peut l'envoyer au Libre Journal. Chez Duquesne, oui.
Bien, il va lui rendre visite, oui. Avec le livre, parce que peut-être que Raffard de Brienne a déjà ce livre. Donc, oui,
oui. Je lui ai montré avant qu'il s'en aille, le père.
Ah bon.
Et il m'a dit qu'il serait tout à fait intéressé.
Ah, alors, justement, donc, il faut. Je crois que la meilleure solution.
Le mieux, c'est de l'envoyer chez Duquesne, puisqu'il
l'envoie
soit
chez Duquesne à l'attention de Daniel Raffard de Brienne, soit au Libre Journal
qui signe samedi.
De Daniel Raffard de Brienne. Je promets que je ne le volerai pas pour ma propre bibliothèque, qui d'abord est bourrée, je ne peux plus rien mettre dedans. Ou alors qu'il lui porte samedi, voilà.
Oui, parce qu'on ne va pas donner l'adresse. Il m'avait laissé sa carte, mais on ne peut décemment pas donner l'adresse de M. Raffard de Brienne au micro.
Je crois que le plus simple, ou alors ce monsieur me téléphone personnellement, puis je lui indiquerai. Voilà, enfin, on trouvera une solution. Mais le plus simple, c'est quand même de passer par Duquesne ou par le Libre Journal. D'autres questions, d'autres réflexions, d'autres
pourquoi,
messages d'autres...
Pourquoi, en quoi la nomination de Mgr Santerre à l'évêché de Vannes est-il un événement?
Parce que Mgr Santerre semble être un des personnages les plus... Enfin, un personnage très intéressant dans l'Église de France aujourd'hui.
Mais d'abord, c'est la première application de la rupture des accords Briand-Séréti qui, jusqu'à maintenant, empêchait pratiquement le Saint-Siège de nommer directement, enfin le pape, de nommer directement un simple prêtre évêque responsable d'un diocèse. Il était en fait obligé de contourner les accords Briand-Séréti pour ne pas se soumettre au ministère de l'Intérieur, au pouvoir politique, en nommant d'abord un simple prêtre comme évêque auxiliaire, et puis l'évêque auxiliaire finissait par être évêque résidentiel. Alors, c'était pas forcément d'ailleurs très sain comme situation, puisqu'il y avait manifestement des gens qui étaient évêques auxiliaires et qui n'avaient pas du tout envie d'être auxiliaires de quiconque et qui avaient montré une impatience considérable devant la situation où ils étaient. Un simple prêtre devient évêque résidentiel, c'est effectivement le constat que les accords Briand-Séréti qui soumettaient à l'accord du pouvoir politique ce genre de nomination sont réellement brisés.
C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un des fruits de l'hyper-laïcisation.
Absolument.
Parce que pour le centenaire de la loi laïque, une des dispositions les plus anti-catholiques tombe. Du fait que la posture actuelle du pouvoir, c'est de dire on n'est pas anti-catholique, on s'en fout.
Oui.
Donc, on n'est pas anti-musulmans, on leur permet de s'organiser pour avoir avec eux des relations normalisées, etc. Et le résultat, c'est que là, le pouvoir vient de perdre un moyen de pression, ou un moyen
un moyen de pression un moyen de pression, c'est ce qui était devenu un moyen de pression, mais qui à l'origine aurait été un moyen de prudence.
Et puis, les mauvais évêques viennent de perdre un appoint très important dans le combat. Parce que les mauvais évêques pouvaient se coaliser, monter des cabales auprès de leurs amis du pouvoir pour empêcher la nomination de tel ou tel autre.
Vous, Éric Lebec, qui nous disait il y a quelques mois à ce micro, le Vatican voulait nommer un saint, la République voulait une crapule et on a désigné un imbécile.
Oui. Je ne me souviens plus. C'est possible.
Il ne l'avouera pas,
mais c'est... Non. Enfin, bon, c'est vrai que, par exemple, lorsque on voit Monseigneur Fillet nommé sur pression de Gaston Defer évêque, après qu'il ait approuvé la loi Chirac-Veil d'avortement, c'est manifestement une pression politique qui n'a rien à voir avec la volonté du Saint-Siège. Enfin, je suis désolé pour Monseigneur Fillet, mais il aurait dû décliner la proposition de l'épiscopat. On n'est pas obligé d'être évêque. On n'est d'ailleurs même pas obligé d'être prêtre. Quelqu'un qui croit avoir la vocation n'est pas obligé et quelqu'un à qui on propose d'être évêque peut parfaitement refuser. D'ailleurs, le cardinal Ratzinger, lorsqu'on lui a demandé d'être archevêque de Munich, alors qu'il était simple prêtre, a été stupéfait et a demandé quelques heures de réflexion avant de donner son accord. L'Église respecte les personnes. Et si le père Ratzinger avait voulu rester un professeur d'université sans devenir archevêque et cardinal et aujourd'hui pape, sa volonté aurait été respectée. Ce n'est pas une question de dignité. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une espèce de carrière préfectorale où on passe d'un petit évêché à un grand évêché.
Ça, c'était très frappant au moment du conclave, quand on nous a expliqué qu'il y avait des pressions, des accords, que Ratzinger avait fait campagne, comme si devenir pape, c'était une espèce de couronnement de carrière. Qu'est-ce qui va se passer? On va gagner plus de fric, on va avoir une plus grosse bagnole, une pièce de plus dans l'appartement.
Le cardinal Ratzinger a fait ce qu'on peut appeler une anti-campagne.
Ah oui, alors vraiment.
Parce qu'il a vraiment mis les points. Il a commencé par engueuler tout le monde en leur disant qu'ils faisaient pas leur travail et que, en gros, Dieu était fort mécontent d'eux.
Il a déjoué le pronostic de quelques-uns de nos meilleurs vaticanologues.
Vous parlez des spécialistes autoproclamés du livre journal et qui croyaient à un Italien, oui. Et par conséquent, le cardinal Ratzinger a fait une anti-campagne et ses amis étaient catastrophés. Or, il a été élu pratiquement par acclamation, il a été élu pratiquement par inspiration, extrêmement rapidement.
Pas tellement vite que, oui, c'est clair.
Enfin, je peux me permettre de livrer. C'est une rumeur qui est tellement forte, n'est-ce pas, qu'elle n'est pas un secret. Il semble que le cardinal Ratzinger ait voté jusqu'au dernier tour pour celui qui est son vicaire pour la ville de Rome, le cardinal Ruini. Et si par conséquent, à l'heure où nous parlons, Benoît XVI était rappelé à Dieu, puisqu'après tout Jean-Paul Ier a vécu très peu de temps, eh bien ce serait probablement aujourd'hui le cardinal Ruini qui, semble-t-il, n'est-ce pas, quoi qu'il ait une assez mauvaise santé, mais après tout, vous savez, on parle de la mauvaise santé d'un cardinal, ce sont des gens qui mangent des soupes claires, qui gardent l'esprit agile, qui se réveillent le matin, ne font pas bamboche, mènent des vies très hygiéniques. On est quand même très très loin de la papauté d'autrefois. Alors, actuellement, Benoît XVI est en vacances, et des vacances d'une simplicité incroyable. Il est allé tout simplement dans le chalet qui avait été préparé pour Jean-Paul II, donc ce qui était prêt pour Jean-Paul II serait tout à fait convenable pour lui. Il a bien sûr son secrétaire, sa maison, il a ses trois chats. Et il a fait venir un piano.
Oui, ça c'est bien vu.
Il a fait venir un piano, son piano.
Sur votre blog, je dois dire aux auditeurs que, je dois faire un aveu aux auditeurs, j'ai publié dans le Libre Journal un papier qui raconte un peu ce que vous allez nous dire ce soir, mais...
Vous en dites sûrement beaucoup plus.
Non, pas vraiment, non, parce que j'ai tout simplement piqué des informations sur votre blog. Benoît, sans accent, 16, en chiffre, chiffre latin, arabe, pardon, Benoît XVI, point.
Non, rien. Je peux me permettre de.
Oui, dites-le, parce que c'est toujours compliqué.
C'est tout simplement Benoît XVI, le livre en un mot.
Voilà.
Alors, il n'y a pas d'accent circonflexe à Benoît. 16 étant chiffre arabe, et il n'y a pas du tout de modestie à le livre. Hein. Là, Raffard de Brienne disait avoir renoncé à la modestie. Moi aussi, parce que ça faisait trop de jaloux autour de moi. Donc, j'ai renoncé à la modestie.
Mais vous êtes quand même trop modeste pour traduire. C'est-à-dire que vous faites allusion là, à votre ouvrage, Benoît XVI, les défis d'un pape à l'archipel.
Voilà, c'est ça.
Dans toutes les bonnes librairies.
Dans toutes les bonnes librairies. Alors, il y a des gens... il y a un peu une polémique. J'ai été cloué par la croix, mais enfin, c'est fait pour ça.
C'est fait pour ça.
Donc, j'ai pas trop à me plaindre.
C'est un journal qui vaut plus un clou.
Le pèlerin m'a envoyé promener, mais enfin, bon, il est aussi fait pour ça.
C'est fait pour ça.
Bon, je sais pas pourquoi je me plaindrais d'ailleurs. Mais en même temps, bon, ils sont restés malgré tout assez respectueux à l'égard de ma personne, donc je leur en veux pas. Et puis les critiques négatives font vendre les livres, et donc mon éditeur s'en rend compte d'ailleurs. Il va y avoir un renouveau autour de Benoît XVI au moment du 15 août, et puis au moment de la publication de ce petit catéchisme par questions et réponses. Parce qu'enfin, c'est un combat que j'ai suivi de très très près, que voulait le cardinal Oddi, qui était préfet de la Congrégation pour le clergé, c'est-à-dire qu'au lieu de publier une espèce de grosse somme écrite dans une langue très éloignée du français, et très éloignée du latin, et très éloignée de n'importe quelle langue parlée... Donc un catéchisme par questions et réponses. Or, on fait enfin le retour à l'appel à la mémoire, à la connaissance...
Au moment de la sortie du catéchisme Pierre Vivante, c'était Audi qui avait dit « Ces enfants vous demandent du pain et vous leur jetez des pierres ».
C'est André Frossard.
C'est André Frossard
qui l'a dit au pape.
Je voudrais citer aussi...
André Frossard, excusez-moi Patrick, mais André Frossard, qui était un ami avec qui j'ai eu une correspondance très personnelle et très importante, et que j'aimais beaucoup, André Frossard avait dit au pape « Voilà des pères à qui on demande du pain et ils nous jettent des pierres ». Et le Saint-Père avait souri, mais bon, ça s'était arrêté là, et il n'avait pas pu, et la pression avait été tellement forte que le catéchisme avait été retiré à la congrégation pour le clergé, le cardinal Oddi, pour être donné à la congrégation pour l'enseignement, etc. Ce qui est une erreur énorme, j'ai le droit de le dire, parce que cette erreur va être corrigée bientôt, parce que le catéchisme, c'est une éducation morale et spirituelle, c'est une formation aux 10 commandements, aux béatitudes, aux œuvres de la miséricorde, à la prière, c'est pas simplement à apprendre des questions et des réponses. Enfin,
vous allez peut-être confirmer ou pas là, cette anecdote de Michel de Gégère qu'on a entendu Serge et moi hier à la Renaissance catholique, à l'université d'été de Renaissance catholique, et qu'il affirmait, notre ami Michel
de Gégère, vous allez voir, il va y venir.
Michel de Gégère, que la publication de ce petit catéchisme, qui s'est vendu à 300 000 exemplaires déjà en Italie, je crois, par questions et réponses, avait été présentée par sa sainteté comme la manifestation de son souci du dialogue.
Oui, mais en effet, par question et réponse.
Avec un peu... Oui, voilà.
Par question et réponse. C'est publié en France par les Dominicains, sous la direction de quelqu'un que j'estime beaucoup, parce que c'est un grand spirituel, un saint religieux, qui est le père Éric de Clermont-Tonnerre, qui a été maître des novices et provincial des Dominicains. Et il y a des catholiques chez les Dominicains, il ne faut pas être absolument consterné, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Par conséquent,
ce catéchisme... Il y a des catholiques chez les Dominicains.
Oui,
chez les jésuites aussi.
Il y en a même chez les Clermont-Tonnerre.
Il y en a même chez les Clermont-Tonnerre. Et oui, ça, oui, sans doute. Oui. Et mine de rien. Et donc, si vous voulez, d'ailleurs, je crois que leurs armes... Ah non, c'est la Tour d'Auvergne,
C'est la Tour d'Auvergne.
Et donc, sont des clés de Saint-Pierre. Donc, si vous voulez, le Saint-Père a reçu un cardinal pendant ses vacances, qui est le cardinal Bertone. Et on peut penser qu'il est
nommer le prochain secrétaire d'État, puisque le cardinal Sodano a largement dépassé,
79.
Les, largement dépassé les limites d'âge. Il est cardinal doyen, il a pris possession de son titre de d'évêque d'Ostie, qui n'est plus qu'un titre honorifique, parce que le cardinal Tisserand avait usé et abusé de ce titre en faveur d'une révélation privée. Enfin bon, le cardinal Tisserand était quelquefois un peu trop imprévisible, si bien que ces cardinaux évêques sont en fait c'est un titre honorifique, ils n'ont pas véritablement de charge d'un diocèse, ils n'ont plus, peut-être que ce sera rétabli, je ne sais pas, c'est un peu un détail. Donc le prochain secrétaire d'État, en tout cas, la volonté est très claire chez Benoît XVI de ramener la secrétairerie d'État à son rôle normal d'indicastère parmi d'autres, et que l'accès au pape pour les préfets de congrégation sera direct. Et je suis assez fier de constater que cette décision que j'ai écrite il y a quelques mois se réalise. Autrement dit, je ne sais pas, enfin bon, le... Enfin, je ne peux pas tout dire, mais je crois que le Saint-Père a eu mon livre. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu. Et il a certainement d'autres soucis et d'autres obligations. Mais enfin, ce qui est absolument étonnant, c'est que, en effet, la secrétairerie d'État, qui était devenue une espèce de vice-pape,
oui.
dans le sens peu vertueux du mot.
Ah oui, bien sûr.
N'est-ce pas,
c'est une machine.
Malgré la qualité du cardinal Sodano et de beaucoup d'autres gens de la secrétairerie d'État.
Machine parallèle.
Oui. Une espèce de machine parallèle.
De soupape.
Oh, oui. C'est bon, bravo.
Oui, oui, il fallait que quelqu'un ose.
Oui.
Et on était sûr que ça viendrait. Bon. Et alors, il y a un article dans le Figaro de Sophie de Ravinel, qui pourrait avoir la politesse de citer mon livre. Ce serait quand même la moindre des choses quand elle y prend des informations. Bon, enfin, je crois que, bon, très bien. Et,
si les journalistes du Figaro sont peut-être polis, alors là,
pour oui, au bel univers, quoi, bon. Et donc. La secrétairerie d'État va réellement être un instrument, de même que le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi est un instrument. Enfin, c'est véritablement Benoît XVI qui prend le pouvoir. Donc, le clergé français, pour le moment, ouvre des yeux ronds, verse des larmes de crocodile.
Vous semblez dire d'ailleurs qu'il y a quand même une grande hostilité du clergé français.
Je crois que malheureusement, dans plusieurs diocèses, on sent une véritable âme de révolte. Enfin, je crois que l'article du père Valadier, alors que le corps de Jean-Paul II était encore exposé, qui donnait la leçon, et qui était une leçon qui n'avait rien à voir avec la foi catholique. Enfin, ce sont quand même des gens qui sont toujours très présents, avec des moyens matériels considérables, d'autant plus importants qu'ils n'ont plus de vocation. Les jésuites n'ayant plus de vocation, ils se trouvent à la tête de tout un tas de bâtiments. Oui. Je veux dire, ils pourraient publier des livres par milliers d'exemplaires, même s'il n'y avait que 100 personnes pour les acheter. Il y a des très 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 sérieux problèmes. Hein. Et Benoît XVI a beaucoup de travail devant lui.
Et vous dites qu'il va certainement publier une encyclique. Il va travailler à une...
Alors il travaille à son encyclique. Très très honnêtement, je ne connais pas le contenu de cette encyclique, ni même les thèmes. Parce que tout simplement c'est lui qui l'écrit et il ne la fait pas écrire par quelqu'un d'autre.
Mais c'est lui déjà qui écrivait celle qui était signée par Jean-Paul II, non ?
Je crois pas.
Il travaillait pas ?
Oui, il travaillait de très près, mais Jean-Paul II écrivait aussi beaucoup lui-même. Je me souviens d'une audience que j'ai eue avec Jean-Paul II très tôt le matin, et très 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 tôt, puisque c'était pour sa messe privée, et que c'est donc 6 heures du matin, et j'étais suffisamment près du pape pour voir qu'il avait de l'encre sur les doigts. N'est-ce pas, alors que c'était évidemment un homme qui était qui se lavait les mains, enfin bon, ce qui veut dire qu'il avait déjà, avant même que les invités arrivent à 6 heures du matin,
il avait déjà travaillé,
il avait déjà pris des notes. C'est un bourreau de travail. Il n'y a aucune comparaison de ce point de vue, je dois reconnaître. Enfin, Benoît XVI est plus apte à écrire que ne l'était Jean-Paul II, ne serait-ce que pour des questions de génération, de formation intellectuelle. Jean-Paul II a principalement eu un rôle d'archevêque de Cracovie et très secondairement de professeur d'université. Alors que
il était quand même philosophe. C'était un
Oui.
Bon,
oui.
Voilà.
Oui.
Bien.
Revenir. T'es lecteur de philosophie.
On donne la parole tout de suite aux auditeurs, mais je voudrais revenir en très brièvement sur l'anecdote des vacances. Oui. Cette histoire de piano.
Ah, moi, j'y attache une importance considérable.
Ah, bien sûr, mais oui. Mais ça a un impact, ça aussi. Ça, les gens sont fascinés quand on leur dit ça. Ça a une dimension humaine soudainement.
Mais je dois reconnaître que j'ai vu, il n'était pas encore Benoît XVI, mais le cardinal Ratzinger jouait au piano.
Voilà, oui.
N'est-ce pas? Je l'ai vu. Et je l'ai vu commettre des erreurs d'accord et ça lui faisait mal aux oreilles. Et puis, il a recommencé sa phrase, etc. Et il se tourne à ce moment-là et il s'est tourné et avec un regard, avec une plénitude extraordinaire. Et c'est aussi un lien très étroit entre lui et son frère qui était maître de chapelle à Lisbonne. Et lorsque son frère, qui était soldat, porté disparu.
Ah, c'est une belle histoire. N'est-ce pas? Racontez-la. Ouais.
Porté disparu. Lorsqu'il est revenu dans la maison familiale, alors que vraiment tout le monde pensait qu'il avait été volatilisé dans un bombardement, enfin bref, la famille a reconnu ses pas, sa manière de marcher. Okay. Et ils avaient tous le souffle tellement coupé que Georg Ratzinger, donc déjà séminariste, mais malheureusement pas exempté du service armé, malgré le concordat signé par Pacelli et la Bavière. Donc Georg Ratzinger, sans un mot, est allé au piano. Et au piano a joué un cantique d'action de grâce. Parce que il fallait la musique pour que l'émotion puisse être complète. Et pour dire tout ce qu'il y avait à dire et le dire à Dieu et le dire à sa famille, à ses parents.
C'est magnifique, ça.
Et la musique est l'art le plus absolu. La restauration de l'art sacré est certainement une des grandes priorités du pontificat. Et je dois reconnaître que c'est une des œuvres de miséricorde, n'est-ce pas, que d'instruire les ignorants, que par conséquent de réjouir, n'est-ce pas, les foules, les masses, avec la musique, avec l'art sacré. Enfin, si on mesure la quantité d'œuvres inspirées
par
la pensée de Dieu, par la liturgie, aussi bien d'ailleurs dans le monde protestant que dans le monde catholique, soyons, a fortiori dans le monde orthodoxe. Enfin, la musique est inséparable de la foi. Et c'est Saint Augustin qui l'a dit, hein, qu'ils aiment et ils chanteront. Prier en chantant, c'est prier deux fois.
C'est le confort de la foi.
Ouais. C'est la joie de la foi. Voilà, quand la foi est accompagnée de la joie, voilà, de Saint Thomas d'Aquin, elle est un fruit du Saint-Esprit. Et c'est tout ça. Alors,
on sent ça chez Benoît XVI.
On sent ça chez Benoît XVI.
Ah oui, vraiment.
Et vous l'avez vu.
Oui, et ben, j'ai le sentiment d'être porté.
Racontez-nous votre visite.
4 minutes, hein, à Saint-Jean-de-Latran. Mais surtout le mot, moi je tombe à genoux, je baise l'anneau du pêcheur, qui est redevenu un vrai anneau du pêcheur, qui n'était pas la bague plate de Jean-Paul II, et en français me dit, relevez-vous, soyez debout avec moi. Et là vous partez sur un nuage.
Ouais.
Bah oui, mais avec une aura comme ça.
Bien sûr.
Je suis pas impressionné comme ça au premier chef, mais là.
Vous n'êtes pas quelqu'un d'un peu facile à impressionner.
Non, mais voilà. Je sens un pontificat joyeux, indépendamment de tout le reste. Enfin,
c'est vrai.
Et serein.
La joie bavaroise.
Voilà. Et il y a une sérénité.
La joie bavaroise. Et alors j'ai scié Odon Valet lorsque j'ai été invité à un débat. Là nous avons une conversation amicale qui n'est pas un débat, mais j'étais invité à un débat, c'est-à-dire un débat contradictoire. Bon, je refuse tout débat contradictoire, parce que, bon, très bien, les conversations amicales sont au contraire très bienvenues et utiles à tout point de vue, mais Odon Valet, je devais avoir un débat avec lui. Et alors, juste avant de monter sur le plateau de télévision, je fais quelque chose de très méchant, c'est que je déjarçonne la personne dont je sais qu'elle va... Au moment de monter sur le plateau, je lui dis « Vous allez voir, il va être aimé. » Et alors, Odon Valet est monté sur le plateau avec un visage chiffonné, froissé, fâché, mécontent. Le public l'a détesté et il y a eu des milliers de messages, m'ont dit les gens de cette chaîne de télévision en faveur de mes interventions souriantes. Voilà.
Il y a une chose qui me frappe, justement, on va peut-être conclure cette partie sur cet aspect, c'est que quand on imagine la révérence, la servilité, quand on voit la servilité du monde médiatique,
en face des puissants, des politiciens. Leur complicité, leur connivence, leur silence.
Leur concubinage au sens littéral.
Concubinage au sens littéral.
Certains sont mariés quand même.
Ouais, ensemble, oui. Ouais. Ah oui, bien sûr.
Ben oui, oui.
Quand on voit ça, et qu'on voit avec quelle arrogance le même monde médiatique traite le pape. S'il donne
c'est pas,
prise.
C'est pas de l'arrogance, c'est d'une ignorance incroyable.
En plus, c'est toujours fondé sur une ignorance.
On m'a fait venir un jour à un débat, à un moment où je venais au débat, je ne vais plus maintenant au débat, je ne vais qu'à des conversations amicales, mais à un débat sur la politique étrangère du Saint-Siège. Et en fait, il s'agissait de parler d'œcuménisme, ce qui est un sujet complètement différent. J'ai mis un quart d'heure avant de comprendre que...
Mais là, récemment, je crois que on a... Enfin, le pape Benoît XVI est allé à la synagogue de Rome. Il a effectué une visite qui avait été organisée du vivant de Jean-Paul II, et donc il a donné suite à l'engagement qui avait été, enfin à l'accord qui avait été passé avec Jean-Paul II pour cette visite. Et il a émis une opinion avec beaucoup de délicatesse, d'ailleurs, mais en gros, ça voulait dire que il pensait que l'accomplissement normal d'un juif dans son accomplissement spirituel, c'était de devenir chrétien. La moindre des choses pour un pape, là.
Fustiger.
Et Fustiger en est l'illustration. Quand on voit l'espèce de...
Oui,
quand on a entendu
le
torrent de protestation qui ont été fulminés par des gens qui d'abord sont ni juifs ni chrétiens, qui se foutent de tout ça complètement, qui à peine posé la plume sont probablement les partousés dans une boîte quelque part dans la banlieue parisienne.
Encore libre journal.
Non. Eh bien, on se dit, mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Ces gens qui ont n'ont que leur
qui sont
morale.
Qui sont sans foi ni loi.
Ils sont sans foi ni loi. Ils n'ont aucune morale, ni privée ni publique.
Et après ça...
Mais là...
Là, ils ont des leçons à donner.
Qui accepte de fréquenter quelqu'un comme Chirac, qui est perdu de vice, enfin c'est tellement évident, son entourage, qui est perclus de cochonneries. Là, ils ont un pape qui ose dire... Alors là, ça heurte leur sens moral, mais avec une force telle qu'ils ne s'en relèveront jamais. On sent qu'ils sont blessés
au
très fond de leur âme claire et de leur innocence cristalline.
Mais ils sont tellement savants. Ils savent que l'Église devra ordonner des femmes, voilà, marier des homosexuels.
Ils savent que, bien sûr...
Oui, marier des prêtres homosexuels, c'est encore mieux, ça.
Oui, le mariage des prêtres, s'ils s'aiment.
Dans le cas de la prétendue du prétendu sacre, enfin ordre,
ordination,
prétendue ordination de cette pauvre femme là.
Enfin, dans aucune religion, la femme n'est auteur d'un sacrifice.
Je peux faire une incise. On disait la bêtise de tout ça. Il y a quand même des commentaires à la radio sur cette ordination de cette femme. Et alors, elle était menacée évidemment d'excommunication. Non
oui, c'est ça.
Et alors, attendez, mais ce qui est merveilleux, c'est que sur France Inter, à chaque journal, quand on en a parlé avec un journaliste différent, elle était menacée d'excommunion.
Elle me fait penser aux islamicazes, moi, parce que vous vous souvenez, je vous l'avais dit d'ailleurs dans un édito, elle est arrivée, elle a pratiquement passé sous la péniche où avait lieu la... tellement elle était terrifiée. Est-ce qu'on peut pas penser qu'elle a été manipulée par ces femmes, elles, beaucoup plus autoritaires et féroces qu'on a vues dans les médias avec leurs lourdes mâchoires, les évêquesses avec leur toge en rayonne. Vous croyez pas?
Il y a probablement de ça.
Ils l'ont maquillée dans la péniche, dans la cale de la péniche, et ils l'ont extraite quasiment de force pour l'exhiber aux médias.
Mais ce qui était extraordinaire,
tout ce qui était exagéré est insignifiant. Sur la
question, ce qui était extraordinaire, c'était la question de l'excommunion.
Oui, ça, alors je dis
qui revenait sans arrêt. Alors, l'Église prononcera-t-elle l'excommunion? Bon, alors faisons abstraction de la foi grossière, mais
la question ne se posait pas du tout.
Mais non, car mais c'est réglé d'avance.
C'était réglé d'avance, la fameuse divine. Donc ces gens qui pontifient pendant des heures sur le caractère autoritaire, fasciste, bien entendu, de l'Église, c'est pas étonnant avec un pape qui s'appelle Adolphe, eh bien, ils ne savent même pas qu'il y a deux formes d'excommunication.
La Saint-Antier.
C'est référendum.
De toute façon, on ne peut excommunier quelqu'un qu'après l'avoir entendu. Donc,
la Saint-Antier, c'est simplement l'excommunication est acquise du fait même de la faute jusqu'au jugement. Il y a une suspension.
Le réputé acquis, il ne s'applique pas.
L'initiation maçonnique.
Voilà.
Excommunié ipso facto. Le jour de l'initiation maçonnique.
Oui, c'est la même chose.
C'est pareil.
Il faut savoir qu'au moment de la discussion, puisque au moment de la, il y a eu une grande discussion à Rome pour savoir si on allait continuer à interdire la maçonnerie aux catholiques, et ce sont les évêques allemands qui ont été les plus lucides là-dessus. Ah oui. Beaucoup plus lucides que les évêques français, c'est curieux.
Oui, c'est inattendu. Mais là, c'est simplement une question de bon
question
sens.
De fréquentation,
c'est du bon sens aristotélicien, c'est-à-dire c'est le bon sens du tiers exclu. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que...
C'est de réfléchir, on a compris.
Oui, voilà, c'est très simple. Le secret maçonnique interdit de révéler ce qui se passe en loge, et la confession demande de tout dire.
De ne rien garder, oui.
De ne rien garder secret. Par conséquent, quand on participe à une réunion en loge, il y a forcément un moment où il se passe quelque chose qui constitue un péché, même véniel. On va parler de quelqu'un, on va en dire du mal, ou on va prononcer un mensonge de convention. Dans toute réunion humaine. Dans toute réunion humaine.
Dans la règle de Saint-Benoît, il y a un mot qui nous accable tous qui sommes réunis ici, dans l'abondance des paroles, on ne peut pas éviter le péché.
Je ne connaissais pas ça, c'est magnifique, je vais le garder pour moi, ça peut servir.
Que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du démon, alors c'est un
mot. Le
silence est d'or.
Dans l'abondance des paroles, on ne peut pas éviter le péché.
Ah non, c'est formidable.
C'est dans la règle de Saint-Benoît. Je dois reconnaître que j'ai reçu une lettre très aimable du père abbé de Solem, et qui est le président de la congrégation de Solem, et les bénédictins sont évidemment infiniment heureux d'avoir un pape qui prend comme saint patron leur patriarche, enfin qui a formé aussi cette Bavière carolingienne. Enfin, c'est un retour sur l'essentiel, c'est un retour sur la prière. Et on va voir les JMJ, excusez-moi,
Serge.
On va voir les journées mondiales de la jeunesse de Cologne, marquées par des temps de prière. On va voir les gens se confesser, on va voir des fruits, on va voir des résultats.
Les dernières JMJ, c'était au Bois de Boulogne.
Il y en a eu d'autres après, quand même, je crois.
Mais,
cela dit, moi, je peux me tromper, que ça ressemblera quand même moins à la tournée d'Elvis Presley que ressemblaient les dernières du temps de Jean-Paul II.
C'est pas Martini qui s'en occupe.
Mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je l'ai vu à Rome, à l'issue de cérémonie sur la place Saint-Pierre, où tout était fini, mais il restait le trône qui avait servi pendant... Et j'ai vu des jeunes gens aller poser les mains dessus, comme ils auraient posé les mains sur la voiture d'Elvis Presley. Et c'est ce côté Disneyland qui était un peu gênant avec Jean-Paul II à la fin. Et là, je crois qu'on en est sorti.
On en est sorti. Bon, Jean-Paul II n'en était pas coupable.
Bien sûr.
Mais contrairement à ce qu'on a dit, sans passer de comédien, etc., c'est complètement exagéré. Le théâtre rhapsodique, c'est trois fois rien. Bon, Jean-Paul II était tout sauf quelqu'un qui pose. Enfin, il faisait pas semblant. Enfin, c'est...
Ah non, bien sûr. Non, mais c'est pas lui. Pas choquant, mais c'est là. Sortait de la foi. On était un peu dans le. C'était Louis Presley, quoi.
On était dans du scandale. Société du spectacle.
Voilà. Justement, je suis en train de penser à une chose. Les médias sont pas très sympathiques avec Benoît XVI, mais si, il le fera jamais. Mais si demain il voulait avoir la couverture de haut, là, des articles formidables, sur la place Saint-Pierre, devant un immense piano avec lui, il arrive en soutane blanche et il donne un concert de jazz, avec les trois chats posés sur le piano, après tout. Et alors là, c'est formidable.
Mais je suis pas sûr qu'il
fasse des podcasts. C'était à dessein.
En tout cas, quand je l'ai vu jouer, c'était pas du jazz.
C'est pas du jazz.
Je suis incapable de dire ce que c'était d'ailleurs, parce que je ne reconnais la musique que parce qu'on se met debout et que c'est la Marseillaise, mais autrement, ou à genoux et que c'est le temps de tout mergo, mais... quand on pense, n'est-ce pas ? Je vais prendre un exemple, permettez, c'est quand même un petit souvenir, n'est-ce pas ? Je parle dans mon livre de Jean Violet, qui avait monté un service d'action pour le Saint-Siège, un service d'influence qui était absolument extraordinaire. Et alors, il y avait une réunion des amis qui se tenait à l'abbaye de Lérins. Et la dernière réunion s'est tenue à l'abbaye de Lérins et elle s'est terminée sur une rupture parce que les Jean Violet et ses amis voulaient que l'on chantât au salut du Saint-Sacrement le Tantum Ergo. Or, le Tantum Ergo a des accents guerriers et alors c'était insupportable.
Bon. Ils sont parfaits. Ils avaient bu un peu de vin de l'abbaye de Lérins, peut-être.
À l'époque, il était très mauvais.
C'est explique tout.
On va donner la parole aux auditeurs et
je vais commencer.
Ce sont soit des questions, soit des indications, soit des interventions personnelles. Un auditeur nous dit le film de Besson a coûté 6 millions d'euros, le film pour les JO. 6 millions d'euros, c'est pas mal quand même. On peut. Ouais. À 13h10 au journal télévisé du 16, Philippe de Villiers annonçait à Claire Chazal que les voitures brûlaient pendant la Garden Party. Claire Chazal a répondu qu'il s'agissait d'incidents. Je pense que si on fout le feu à sa voiture, elle trouvera moins que c'est un incident probablement.
Elle a pas dit tradition, c'est déjà ça de gagner.
Ouais. C'est un incident traditionnel.
Oui.
Oui, alors, un pilote d'hélicoptère nous dit, le 14 juillet, 16 hélicoptères ont tourné en rond pendant une heure dans l'ouest de Paris avant de passer sur les Champs-Élysées, c'est inutile. Signé un pilote d'hélicoptère, il doit savoir de quoi ça. Effectivement, quand on connaît l'heure de...
Le prix de l'heure de vol, je vois.
L'hélico, c'est... Ouf!
Ça fait penser... par
il y avait cette merveilleuse émission qui s'appelait Merci Bernard. Où il y avait, on a tout essayé,
ah, on a tout
bien
essayé,
avant Henriquet, oui. Et il y avait, c'était la fille de Michel Morgan qui jouait ça, je sais plus comment elle s'appelle. Si,
elle a pas eu de fille, la petite fille.
Si.
Michel Morgan a une fille.
Bien sûr, avec le comédien américain, acteur américain. Elle porte.
T'as dit Marshall?
Marshall.
Oui, ben c'est un fils. Elle a pas eu de fille.
Non, elle a une fille, bien sûr.
Non, mais non.
Tony, c'est une fille. Tony Marshall, Tony.
Non, ben vous parlez pas de Michel Morgan.
En tout cas,
Michel, vous parlez de.
C'est Micheline Prel.
Oh, c'est Micheline Prel.
Micheline Prel, c'est pas Michel.
Elle a eu qu'un fils. Excusez-moi, Micheline Prel,
il y a pas de
un lapsus. Et Tony Marshall, elle essayait tout. Alors, elle disait, par exemple, elle faisait un numéro où elle arrivait à l'écran complètement échevelée, complètement déchiquetée. Et elle disait, j'ai essayé le lion du jardin des plantes, ouh, c'est un mal. Je trouve ça absolument adorable. Ça fait, voilà, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais c'était une intervention d'auditeur qui me faisait penser. La sécurité privée qui assurait la sécurité du métro de Londres et celle qui assurait la sécurité du World Trade Center. Si c'est vrai... La société privée qui assurait la sécurité du métro de Londres et celle qui assurait la sécurité du World Trade Center.
C'est l'humour. C'est une grosse publicité.
Ah bon,
là, oui.
Parce que si c'est vrai, bon, c'est peut-être qu'il faudrait revoir certains contrats.
C'est de la
j'espère
publicité.
Que c'est pas elle qui est chargée de la sécurité.
Ah oui, c'est, radio.
C'est de la publicité pour les Jeux Olympiques de 2012.
À la paroisse Saint-Georges, Paris 19e, au secrétariat... Attendez, j'arrive pas à lire. Je peux pas lire, je suis désolé. Alors là, je peux pas lire. À Belgrade actuellement, le prix des appartements est en euros depuis un an. Le chiffre des ventes est le même qu'il y a un an. Pardon. À Belgrade actuellement, le prix des appartements est en euros depuis un an. Le chiffre des ventes est le même qu'il y a plus d'un an, mais c'était en Deutsche Mark. Ça veut dire que ça a doublé donc. 1 million d'euros, c'est à peu près 2 millions de Deutschmark. Mmh. La Serbie est actuellement dépossédée de son habitat et se sent reprise et ses entreprises, exactement comme la France, la peur engendre l'individualisme et les peuples sont sans réaction globale. Ça, c'est vrai, ce qui est en train de se passer, c'est un véritable pillage, enfin pas pillage d'ailleurs, c'est une appropriation légale, il n'y a rien à dire, des pays par des étrangers. Et vous avouerez qu'il y a quand même une espèce de paradoxe au fait que on a combattu des gens qui arrivent avec des fusils pour s'installer chez nous, alors que maintenant on acclame des gens qui arrivent avec des carnets de chèques. Moi, je vois pas bien la différence parce que en Vendée, par exemple, en ce moment, les jeunes mariés ne trouvent absolument pas à se loger parce que les prix des maisons ont été multipliés par 2, 3, 4. Et des petites maisonnettes qui valaient il y a encore 5-6 ans, on trouvait une grange habitable, enfin qu'on pouvait transformer en habitation pour 100 000 francs.
Et maintenant, ça vaut 800 000, 900 000 francs. C'est du délire. Et les jeunes ne peuvent absolument pas se loger. Donc, voilà encore une chose qui va probablement durer moins longtemps que les impôts. Je collectionne tous les faits qui vont conduire un jour ou l'autre à ce que je rêve de voir. C'est une opération de défenestration du côté du centre de Paris. En ce qui concerne les voitures qui flambent, il suffirait de qualifier juridiquement ces actes comme des crimes et les sanctionner en conséquence. Ce sont des incendies volontaires. Pour qu'ils cessent, une majorité de parlementaires existe pour voter une telle loi.
Mais c'est pas la peine. C'est 10 ans de prison. Alors j'indique, Serge, qu'on en est à 300 voitures brûlées sur l'île de France, 500 en France, et il y a un jeune, là, c'était une pleine page du Parisien Libéré, un jeune a pris 6 mois ferme.
Ouais, c'est un truc que je comprends pas. Là. Vraiment, qu'est-ce que vous avez contre les gens qui essayent de relancer l'automobile, l'industrie automobile? Enfin, écoutez...
C'est pas des assureurs, en tout cas.
Je peux me permettre de raconter une petite histoire qui est arrivée à mon ami Patrick Chauvel, qui est journaliste et avec qui j'ai fait plusieurs reportages. Et il était, pour Paris Match, en train de planquer avec la police dans un quartier suburbain de Lyon. Et pour une ronde, n'est-ce pas? Et un endroit où il pouvait penser qu'effectivement, peut-être quelqu'un viendrait faire brûler une voiture. Et voilà qu'ils ont vu une assez jolie voiture s'arrêter à côté d'une autre, et puis mettre le feu à la voiture qui était garée, et commencer à prendre très tranquillement des photos. Alors évidemment, les personnes qui venaient d'allumer l'incendie se sont fait faire aux pattes dans la seconde qui a suivi. C'était des journalistes.
Bien sûr.
C'était des journalistes qui avaient besoin de matière. D'un journal dont j'ai...
Alors, en général, ils payent les jeunes pour le faire.
Un journal parisien.
Comment, un journal parisien
de Paris, oui.
Non, un journal de Paris, mais qui n'est pas quotidien.
En général, ils ne mettent pas les mains dans le cambouis ni dans l'essence. Ils payent des jeunes pour le faire. Ça s'est produit plusieurs fois.
Alors, j'avais promis... oui, vous écoutez Radio Courtoisie. C'est vrai qu'il faut s'identifier. C'est une nouvelle habitude. Ça fait 20 ans que j'essaie, je n'arrive pas.
Je vous tape sur les doigts, Serge.
Voilà, c'est bien. Tapez.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Vous pouvez l'écouter également sur tv-radio.com.
Dans le monde entier et
dans
au-delà.
Dans le monde entier et au-delà. Et je reçois ce soir mes amis. Voilà.
Ça s'entend, je crois.
La maman... Ah oui, alors j'avais promis une anecdote sur Laval. C'est vrai qu'il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur Laval, sur le dossier Laval. Et j'ai pas pu publier mon travail parce que il y a eu une opposition de la part de la famille de Laval qui voulait garder une espèce de monopole de ça. Bon, donc j'ai abandonné, mais le sujet était intéressant, c'était les relations pendant l'occupation de Laval avec les juifs et les francs-maçons. Et j'ai recueilli beaucoup d'anecdotes qui étaient tout à fait passionnantes, notamment Laval. Un jour, un officier allemand vient le voir et lui dit, moi je crois que c'était d'ailleurs Otto Abetz, lui dit, c'est très embêtant parce que nous savons que beaucoup de réfractaires, de déserteurs et d'évadés travaillent, et de juifs travaillent dans une imprimerie de Clermont-Ferrand. Il me semble que c'est Clermont-Ferrand. Il faudrait faire une intervention. Et Laval dit, oui, je suis désolé, mais vous pouvez pas me demander ça parce que cette imprimerie m'appartient. Voilà. Et alors, il y avait plusieurs anecdotes comme ça qui montraient que c'était pas exactement ce qu'on pensait.
Je peux vous en raconter une, deux secondes?
Oui.
Il y a les maçonniques en plus. Bon, tout le monde sait, puisque je l'ai dit, que j'ai été initié, que j'en suis parti, par votre faune d'ailleurs. Grâce à vous, disons. Et j'ai été jusque dans les hauts grades, moi. Et le soir de mon initiation, je ne sais plus quel grade, mais enfin bon, grande courgette de la porte sublime, un truc comme ça, il y avait forcément une planche. Oui, mais là, c'est plus, ça s'appelle, je ne sais pas quoi, un truc buriné. Bon. Donc, il y a un monsieur qui a parlé.
Une planche tracée, ça s'appelle.
Oui, c'est ça. Un monsieur qui a parlé, qui a dit plein de choses méchantes sur Vichy, sur le maréchal Pétain. Donc, c'est très bien, rue Cadet, c'était parfait. Et le grand gardien du temple, qui était un tout petit bonhomme, quasi centenaire, tout moche, et qui était une caricature de juif, comme on les faisait dans les dessins antisémites, à la fin, après, il a parlé, ah ben non, quand même, vous exagérez. Puis tout le monde a fait bof, bof, bof. Et après, pendant le banquet qui suivait, j'ai dit, mais enfin, comment ça se fait que ce monsieur a apparemment, et qui a connu les horreurs de la guerre, vu son âge, prennent la défense du maréchal Pétain, etc. Et puis bon, il est quand même en loge, un grade très élevé, là je comprends pas très bien, les francs-maçons juifs. Ben, c'était le tailleur du maréchal à Vichy.
Ah. Alors donc c'est une dame qui a été médecin pendant la guerre et est réfugiée à Guéret. Elle a accueilli des réfugiés juifs cachés dans la cour de l'hôpital à la demande de Pierre Laval. Et aujourd'hui, on veut absolument lui faire accepter une décoration, parce qu'elle a 91 ans, et on trouve qu'à 91 ans, il faut lui donner le statut de juste décoration et décoration y afférente. Alors elle a dit, du haut de ses 91 ans, qu'elle voulait bien. Elle voulait bien, mais qu'au cours du discours de remise, il tenait absolument à ce qu'il soit précisé que c'était à la demande de Pierre Laval qu'elle avait accueilli ses réfugiés juifs.
C'est un peu
alors,
compliqué. Là.
On lui a dit, non, pas de décoration, vous êtes complètement gâteuse.
Ouais,
enfin, c'est assez bien aussi. Oui, alors là, je suis très vexé, je dois dire, c'est un auditeur qui me dit, dans Rivarol de cette semaine, il y a un article de Claude Lorne, j'aime beaucoup les articles de Claude Lorne, ils sont remarquables, qui nous apprend que Paris est candidate pour les Jeux Olympiques de 2010, qui sont les Jeux pour les homosexuels, et la réponse sera le 12 novembre. Oui, c'est les Gay Games. Trois villes en concurrence, Cologne, Paris et Johannesburg.
Mais on s'en fout.
Non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que j'ai raconté ça dans le Libre Journal il y a 15 jours, vous comprenez.
Je suis sûr que Claude Lorne nous cite, parce que nous citons régulièrement Rivarol, donc notre lecteur
toujours aussi.
Est moins sensible que nous à ces questions, et je suis sûr que Claude Lorne nous cite.
Voilà, donc je voulais dire ça. Il ne faut pas m'envoyer des informations de cette nature.
Les Gay Games.
Voilà, décidément, il y a un texte, je n'arrive pas à lire, je suis désolé. Et puis.
Un auditeur nous informe que l'évêque de Nanterre, Monseigneur Dancourt, a autorisé une messe Saint-Pie-V dans une église de Nanterre, Sainte-Marie des Fontenelles.
Ça, c'est extraordinaire.
À partir du premier dimanche de la
C'est un événement énorme et auquel Radio Courtoisie est liée par l'intermédiaire de Daniel Amiche.
Absolument.
Puisque un groupe de catholiques qui, de façon parfaitement pacifique, courtoise, mais obstinée,
Depuis des années,
faisait le siège de l'archevêque de l'évêque de Nanterre pour obtenir l'application du motu proprio, avait fait l'objet d'une rebuffade violente, et ces catholiques étaient venus sur Radio Courtoisie, avaient dit certaines choses qui étaient parfaitement courtoise, parfaitement digne, et c'est le vicaire de Monseigneur de Cour avait, me semble-t-il, modifié les propos qu'il avait tenus, les avait accusés d'avoir tenu des propos insultants, etc. Et Daniel Amiche n'a pas du tout pris la chose à la légère. Il a envoyé une lettre très à cheval à ce vicaire général qui a été contraint d'envoyer une lettre d'excuse.
Mais tout ça a été lu au micro de Radio Courtoisie.
Et ça a été lu à Radio Courtoisie, bien sûr. Or, maintenant, ça c'est quand même formidable, parce que Ducourt avait dit jamais, jamais, jamais. Voilà. Vous n'êtes pas dans la communion, jamais. Eh bien, si c'est vrai, il semblerait qu'il ait finalement accepté l'application du motu proprio, donc une messe de Saint-Pie-V dans une église de Nanterre, à partir du premier dimanche de l'Avent. C'est quand même une grande victoire, pas contre Ducourt, mais des catholiques de tradition et de la tradition, et c'est quand même un signe encore. On a parlé très brièvement, trop brièvement, je trouve, de Monseigneur Santaine, qui appartient, j'ai dit, à une grande famille bagnolingue, très, très dans la tradition, très bien la tradition obéissante. Des gens tout à fait remarquables. Et lui, était, semble-t-il, un prêtre qui... l'ancien curé de Bagnols, que j'ai très bien connu, qui est un homme absolument délicieux, mais... très d'une foi très simple, très, alors très obéissante. Lui, il est complètement dans le progressisme. Et bon, il dit de toute façon, il suffit d'aimer le Seigneur. Moi, je veux pas toutes ces histoires de gesticulation, toujours mais devant le Saint-Sacrement, et je me mets en adoration. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut, c'est ça. Il faut l'adorer et il vous renvoie de l'adoration. C'est tout, ça suffit. C'est pas la peine de faire des gesticulations, des discours de vieilles bigotes. Tout ça, c'est des histoires, ça sert à rien. D'abord, il faut ça devant le Saint-Sacrement, puis après ils vont dire des méchants santé sur le parvis. Hein. C'est pas la peine de faire ça. Bon, alors quand je lui ai dit qu'est-ce que vous pensez de Monseigneur Santé, il me dit oh mais je suis très bien connu, vous savez. Il paraît, mais je voudrais pas être maldisant, hein, mais il paraît que quand il va à Rome, dans une église de Rome, je sais pas, ça s'appelle des jésuites ou je sais quoi, il paraît qu'il célèbre le rite de Saint-Pie-V. Et il y en a qui disent, je peine à le croire, hein, mais il y en a qui disent qu'il en veut un soutane.
Et ben c'était vrai, voilà. Je lui ai dit, mon père, c'était vrai.
Eh ben, il me dit, eh ben. Mais c'est un homme adorable. Voilà, comme quoi, est-ce que vous voulez, on peut même pas détester les prêtres progressistes.
Vous vous rappelez, Serge, qu'hier, à l'Université de Renaissance catholique, notre ami Gégé, encore lui, parlait de nostalgie catholique. Il mettait ça dans la bouche d'évêques qui avaient participé à Vatican II. Est-ce que vous ne croyez pas, je me permets encore une question de Huron, est-ce que vous ne croyez pas qu'y compris Raffard de Brienne, il le disait presque tout à l'heure, y compris cette sueur des athées sur le sphère, ces agressions, l'ordination de femmes, les attaques permanentes sur les médias, vous ne croyez pas que d'une certaine façon, sans l'attribuer au Saint-Esprit, même en restant sur terre, ça participe d'une nostalgie catholique?
C'est les hurlements des damnés, hein. Ils sont exclus, bon, c'est une figure, c'est une image de la souffrance des damnés qui sont exclus et qui bouillonnent de rage aux portes du paradis. Ils se sont exclus eux-mêmes. Ils sont pas, personne ne les a chassés.
Ce qui va beaucoup changer les choses, c'est quand le visage et la personne de Benoît XVI va être de mieux en mieux connu. Mmh. Parce que c'est véritablement quelqu'un qui est l'image du bon pasteur. Et cette haine va passer à côté. Elle va, comme on voit des vagues comme ça qui arrivent du large, et puis ça se termine dans un petit peu d'écume,
un petit clapotis
dans lequel pataugent les enfants. Et on avait l'impression d'une tempête rugissante au large, et puis ça vient mourir.
Attendez, depuis la mort de Jean-Paul, on voit la sérénité de l'Église quand même.
Bien sûr.
Le fonctionnement de la machine, ça immuable.
C'est impressionnant. Le simple fait que ce conclave se soit passé si rapidement.
Voilà. Ah, ça a cloué le bec à tout le monde déjà.
Ça a déjà.
Oui, puis ça a prouvé une entente.
Oui.
Mais le père Avril me disait justement hier qu'il pensait, lui, que si le conclave s'était déroulé aussi rapidement, c'est parce que tout de suite, les membres du conclave ont compris que
c'était celui-là.
C'était lui.
Et puis voilà. Oui.
Et donc, et immédiatement, ils ont compris.
Alors là, c'est vraiment le Saint-Esprit dans ce cas-là.
Continuer à faire. Là, il y a quelqu'un.
Oui, il y a là, c'est le Saint-Esprit. Là.
Il me disait, il semble qu'il n'ait pas voulu faire durer artificiellement. Faire retarder artificiellement une décision qui, de toute façon, s'imposerait. Voilà. Parce que ça aurait donné, alors là, l'image d'une église en déchirement complet. Et ils se sont dit, c'est une opinion, le père Avril.
Non, mais ça tient la route, oui. C'est lui, voilà.
Oui, je pense que quand il a présidé les funérailles,
On le sentait déjà.
On sentait déjà une énorme noblesse, une simplicité de manière. Il était déjà naturellement là, quoi. Et c'est surprenant parce que. Si vous voulez, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, comme je l'ai écrit, c'est un homme d'une simplicité totale.
Oui. Que raconte le marquis, c'est quand même une simplicité aristocratique.
Oui, c'est ça, l'aristocratie.
Magnifique. Ouais. D'autres messages, Victoria?
Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'Odon Valet. Un auditeur nous précise qu'Odon Valet est l'héritier d'une très grosse fortune, qu'il fait dans le tiers-mondisme, et que cela explique ses apparitions à la télé.
Ben c'est bien.
Peut-être.
Il est donc deux tiers mondain, un tiers mondiste.
Oui, c'est ça.
Et puis, on vous demande...
Je suis très content qu'il ait de la fortune. Ça ne me coûte rien, en tout cas.
Ah, nous, rien, non.
On vous demande de préciser l'adresse Internet sur le pape Benoît XVI et redonnez-la complètement.
Ah oui, bien sûr. Alors, c'est très facile. C'est Benoît XVI, le livre.
Ça, en général.
Recommence.
Benoît XVI, le livre. Tout en un mot, tout attaché, sans virgule, sans
donc,
mot.
Donc, 16, on l'écrit en lettres.
16, on l'écrit en chiffres arabes.
Oresco,
en chiffres arabes.
En chiffres arabes.
Oresco, référence.
Benoît. Alors on met le 1-6, comment on fait pour que ce soit
1 et 6.
Ah
bah Benoît sans accent circonflexe, car les accents circonflexes...
Un cardinal sans chapeau, voilà.
Voilà. Alors Benoît 1-6...
Benoît 1-6, le livre.com.
Tout ça collé.
Voilà. Tout ça collé. Voilà. Et à ce moment-là, s'ouvre la page et on a tout un tas de messages. On peut répondre. Il faut savoir que les réponses sont publiques. C'est-à-dire que si on écrit des sottises, eh bien, on risque de se faire, de se faire humilier. Et que, bien entendu, si on écrivait des choses à caractère illégal ou injurieux, la personne qui est responsable du blog, qui est juridiquement moi-même, mais il y a un technicien et qui est plus qu'un technicien, qui est un rédacteur avec moi et que je me permets de saluer. Parce que c'est un grand esprit, un grand ami qui est Xavier de Masneau.
Un bon camarade.
Et un grand professionnel, puisque en quelques minutes, on peut dire, en deux jours, il a monté, il m'a donné cette idée, donné, offert et ajouté au livre donc ce blog. Ce qui fait qu'actuellement sur Google, quand on tape Benoît XVI, eh bien, ce livre est tout simplement le quatrième après deux occurrences du Saint-Siège. Enfin bon,
il faut dire quel livre alors pour améliorer votre.
Oui, donc votre Benoît XVI, les défis d'un pape.
Par Éric Lebec.
Et par Éric Lebec aux éditions de l'Archipel. Et on trouve en particulier sur le blog toutes les corrections, modifications qui ont pu être apportées depuis, et ainsi que des explications sur certaines décisions qui ont été prises depuis la parution du livre. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième édition en cours, et qu'il n'est pas nécessaire d'acheter la deuxième édition pour avoir les ajouts. On a page par page, ou bien sujet par sujet, de quoi rester informé, soit parce que des amis me téléphonent, ça arrive, ou m'écrivent, ou m'envoient des mails, et comme ça je peux apporter des informations complémentaires à ce livre. Je pense que Benoît XVI est un homme qui est appelé à être aimé, qui est appelé à durer, n'est-ce pas, même si certains ricanent bêtement dans les sacristies en disant qu'il faut prendre son pape en patience, que 78 ans et 3 mois, ce ne sera pas l'éternité, etc. Eh bien, je leur réponds en polonais, Stolat, qu'il vive 100 ans.
Mais vous avez été beaucoup trop vite pour redire le titre. Alors, Benoît XVI...
Les défis d'un pape. Donc, par Éric Lebec, aux éditions de l'Archipel, qui est une maison d'édition qui publie aussi le Dalai Lama, qui a publié les discours de Jean-Paul II et beaucoup d'autres ouvrages de tous ordres. C'est un éditeur d'intérêt général qui est Jean-Daniel Belfond, le fils de Pierre Belfond, qui a été un des grands éditeurs de la place de Paris. Et dont les mémoires sont d'ailleurs passionnants.
Belle dynastie d'éditeurs. Alors, on a parlé de Danone. Et je reçois un message que je ne résiste pas au plaisir de vous lire parce que je trouve qu'il est d'un humour rare.
Ah, ah.
Résumons. Je possède une action Danone, en théorie. Je choisis de la vendre à Pepsi-Cola car il m'offre 40 euros par action au lieu de 30 euros à la clôture de la bourse hier. Le communiste Borloo arrive et s'oppose à la vente de ce qui m'appartient au motif qu'il est ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale. Je suis donc 10 euros moins riche que j'aurais pu l'être aux frais de Pepsi-Cola, compagnie étrangère. La France s'est donc appauvrie de 10 euros. En fait, elle s'est appauvrie de bien plus car maintenant les autres investisseurs ont reçu le signal de ne pas investir en France où ils risquent de ne pas pouvoir pleinement bénéficier de leur plus-value potentielle. Je ne comprends pas comment les actes d'ingérence dans l'exercice de mes droits de propriété et d'opposition à l'achat de Danone au prix fort par une compagnie étrangère améliorent l'emploi et la cohésion sociale. Mais je suis un peu bouché en socialisme appliqué.
Ah, c'est joli.
C'est joli, hein.
Ah oui, c'est très bien.
Le président de la compagnie des agents de change, Rondleu, disait « Je connais des pays qui disent être démocratiques parce qu'ils ont une assemblée nationale, Mais il n'y a pas de pays qui puisse se dire démocratique sans avoir de bourse du commerce.
Et puis, on vous demande comment on peut se procurer le DVD de Loïc Leribaud.
Ah ben, il faut acheter le livre. Le livre s'appelle « Qui a peur de Loïc Leribaud ?». Il est paru aux éditions Osez Dire. Alors, Osez Dire, je vais essayer de vous trouver une adresse utilisable. Oui, bien sûr, il n'y en a pas. C'est Marco Pieter, pardon, c'est la collection Osez Dire. Marco Pieter, M-A-R-C-O, Pieter, P-I-E-T-T-E-U-R, éditeur. Et je vais vous donner le numéro ISBN, ce qui est plus simple que tout. ISBN, c'est 2-91-99-37-02-2. Je répète, ISBN 2-91-99-37-02-2. Vous faites un chèque de 29,80 € et au dos, vous écrivez l'ISBN, vous portez ça chez votre libraire. S'il est doté d'un cerveau, ça doit régler le problème. Maintenant, il y a quand même une adresse, je viens de la trouver, c'est l'éditeur Marco Pieter, 7 rue de l'eau, comme l'eau qui tombe, L-4101, Esch-sur-Alzette, E-S-C-H.
Luxembourg, ça. Elle, ça veut dire Luxembourg.
Esch-sur-Alzette. Alzette, c'est joli, ça. Grand-Duché de Luxembourg. Ah, ouais. Le téléphone, c'est... Alors, au Grand-Duché, 352-26-54-10-77. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez comme ça, Marc?
Comme ça.
Et c'est fou de moi, carrément.
Pas du tout.
Et je ne sais pas pourquoi il rit comme ça.
Est-ce que vous voulez bien donner le numéro Sirette de l'entreprise?
Il y a vraiment que Radio Courtoisie.
Merci, Eric. Alors, ça,
on donne des numéros d'ISBN.
Mais
c'est comme ça qu'on a fait...
C'est le meilleur moyen de trouver un livre.
Oui, et c'est comme ça qu'on a fait beaucoup de bobos à France Culture, entre autres.
Alors, et il y a un courriel qui est info@mpedition.com. Mpédition M.
Benoît.16.
Ce qui me faisait rire, c'est de voir notre malheureuse Victoria qui n'arrivait pas à suivre pour noter. Voilà. Et elle a renoncé d'ailleurs.
Dites-moi, attendez, vous n'avez pas qui me paraissait utile, je l'ai noté tout à l'heure.
Oui.
Attendez, on va le torturer un peu. Oui. Alors, ce voyage au Maroc, comment ça vous a coûté, au fait, la mamounia? Allez-y.
Il est riche comme crazy.
Ça vous travaille, ça.
Alors, attendez, je ne le paye pas, je voudrais savoir d'où vient l'argent quand même.
Je suis à la retraite.
Ah, c'est pour ça.
Il a une bonne retraite.
Surtraité.
Parce que moi, je ne donne pas un sou.
Il a un côté tiers-mondiste aussi, puisque c'est au tiers-monde qu'il va dépenser son argent.
Oh non, à la Mamounia, c'est pas le tiers-monde.
C'est la partie la plus intéressante. Faites-nous rêver.
Alors, je vais vous faire rêver. C'est la Mamounia avec le Royal Palm à Maurice, la Gazelle d'Or à Taroudan. Ça reste l'hôtel que par goût nous aimons.
Vous me dites que, par exemple, la climatisation
est parfumée par un parfum réalisé par la maison Guerlain, qui est exclusive Mamounia, alors qui est un truc extrêmement léger, mais il y a un air Mamounia dans toute la Mamounia.
C'est Capou.
Ne téléphonez pas, hein, c'est pas Capou, c'est Marrakech au Maroc.
Voilà. Et pour les VIP, on a bien voulu me considérer comme tel, il y a en plus de tout le reste dans la salle de bain un flacon de cette fragrance qu'on a le droit d'emmener en partant, bien sûr.
Et vous l'avez emporté?
Bah oui, on l'a donné.
Vous l'avez pas donné au petit Chaouche, là, qui...
Ah bah attendez, je suis pas sorti, moi. Je suis resté au bord de la piscine.
Le petit Chaouche qui court dans les couloirs, qui fait les courses.
C'est des maîtres d'hôtel en habit, pas des petits Chaouches. C'est votre hôtel à Agadir, ça. Parce que j'ai continué à écouter la conversation au téléphone.
Parce que les chambres sont comment? Elles sont très grandes.
Les salles de bain pas immenses, mais entièrement équipées, et toute la Mamounia est meublée en majorelle. Alors soit d'origine, soit reconstituée. Et donc on est dans un décor des années 25, quoi, somptueux.
Et comment est le personnel? Ils sont aimables, coincés?
Oui, non, pas du tout. Mais
c'est pas Danieli.
Non, c'est plus... Bah, il y a le côté hospitalité arabe, mais avec beaucoup de classe. On reste...
Il y a une école hôtelière au Maroc?
Non, ils vont tous en Suisse avant d'exercer. Ils viennent de l'école hôtelière de Genève ou de Zurich, je ne sais plus.
Ils n'ont pas le même accent que les maires de Paris.
Non, non, ils parlent français impeccable. On est mieux servi à la Mamounia qu'à Paris. Alors, il y a maintenant, c'est un peu fréquenté par des bouffes parce que l'argent a changé de main, comme je le disais.
Oui, on a remarqué.
Et alors, le personnel
on a senti qu'il était sorti de nos mains. En tout cas,
le personnel n'a pas changé. Il reste un pas vide devant les claquements de doigts, devant les cigares entre les plats. Les téléphonades pendant qu'on mange, tout ça, le personnel reste impassible.
Oui, donc la clientèle n'est pas au niveau de la maison.
Fini.
Le restaurant est...
Il y a 5 restaurants, et le soir, le rangerie regroupe la carte des 5. Et alors, ça représente plusieurs continents. Alors, on peut commencer une entrée italienne, un plat thaïlandais, finir par un dessert français.
Et
une cave sublime.
Les animations.
Hein. Oh, rien, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu au bord de la piscine pour l'apéritif. Non.
On ne peut pas gagner un
pastis.
Un paillet citron.
Non, il n'y a pas ça.
Moi, ce que j'aime bien, c'est.
Agadir.
Comment on chantait déjà Yagadou, donnez-vous le café. Non, ils font pas ça.
On fait pas, non.
Bah, écoutez, vraiment, les vacances ont changé depuis l'époque où j'en prenais.
Alors, tout ça, pour vous demander pourquoi j'étais allé, je voulais récompenser mon filleul et neveu d'avoir eu son bac. Et puis, je voulais montrer au deuxième ce qu'on avait quand on avait le bac.
Oui, c'est bien, mais alors il s'en fout maintenant, il a eu le
cuisine. Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas pensé à ça, oui, franchement.
Alors, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, au fait?
Parce que
c'est des jeunes gens, ils ont
Oui, tout à fait. Alors là, très honnêtement, j'ai découvert avec bonheur que, le McDo, on y va quand on peut pas faire autrement.
Ah ouais.
Et j'avais emmené avec moi, il y a une série de DVD qui viennent de sortir sur les grands restaurants. Et j'avais parlé à mon neveu de celui de chez Lasserre, il est venu le regarder dans ma chambre, j'y vais regarder 5 minutes. Il est C'est jusqu'au bout. Et quand il voyait le type préparer le pigeon André Malraux, etc., il m'a dit, mais c'est de la bijouterie, mon oncle.
Ah.
Et j'ai découvert que d'un seul coup, c'était pas mal.
Pour élever vos enfants, emmenez-les à la Mamounia.
Confiez-les au marquis, il en fera des hommes.
Vous n'aurez pas perdu votre temps à écouter cette émission ce soir. C'est la dernière en ce qui me concerne pour un mois et demi. Je serai de retour début septembre, j'espère pas en forme de tonneau.
Ça dépend de vous.
Je vais m'ennuyer de vous, mais je téléphonerai de temps en temps si Daniel Amiche, qui me remplace, le veut bien. Je vous souhaite un très bon été, pas trop caniculaire. Tenez bon, on les aura, et que Dieu nous garde.